pas commencé à me saouler, toi.
T'auras remarqué, mais il y a une ambiance assez taquine au début dans les enregistrements.
Taquine, une ambiance de merde, oui.
Qu'est-ce que c'est, ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer?
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Juan.
Bonjour.
Ça va?
Mais oui.
Camille.
Bonsoir.
Ça va?
Oui, ça va bien, merci. Et toi?
Bah, très bien, merci. Hicham.
Konnichiwa.
Ah.
On fait ça du va. Setup.
T'as changé de pays, là,
pas
non
compris. Ça va?
Ça va, ça va. Je sais pas dire ça va en japonais, donc je dis ça va. Et...
Bon, t'aurais pu bosser quand même. Hein.
La baisse.
Monica.
Salut.
Ça va bien?
Ça va très bien, et toi?
Bah, très bien, merci. Et on a avec nous un super invité dont vous avez déjà parlé, et qui est Vincent. Comment ça va?
Ça va très bien. Bonsoir à tous et à tous les auditeurs.
Bonjour Vincent.
Si. Pour rappel, Vincent qui est notre super sponsor vigneron du domaine de Pélissol.
Tu peux dire dealer là au niveau où on en est.
Qui nous a rincé avec un excellent vin déjà il y a quelques mois et qui nous a re-rincé à l'instant vu qu'on se gosse d'un excellent vin.
Absolument. Je pense qu'une partie de nos auditeurs ont déjà entendu, soit entendu parler, soit entendu Vincent tout court.
Oui, disons que j'ai commencé il y a 2 ans à faire le tour de la podcastosphère française et j'espère bien arriver à faire le tour.
Ah bah, on espère qu'on pourra relayer au maximum, on va faire du lobbying.
Exactement. Et d'ailleurs, je viens de intérieurement crier de joie parce que je viens de goûter ce petit rosé qui est excellent.
Ah, merci.
Donc il est très très bon, effectivement. Bah du coup, tiens, peut-être que tu peux nous dire un peu ce que tu fais, nous parler de ton domaine, de ton vin.
Voilà, donc moi Vincent, vigneron donc depuis un petit peu plus de 5 ans, même si j'ai toujours travaillé dans le domaine du vin. Donc je viens du Languedoc, ça s'entend un petit peu à mon accent. Suis autant geek que vigneron, donc ça peut amener des mélanges assez marrants. Donc du coup, j'ai déjà participé effectivement à quelques émissions numéro 1 sur le high-tech et très alcoolisé.
Ah, on voit pas du tout de quelle émission tu parles.
Non, aucune idée.
On n'a pas le cité.
Absolument pas. Et donc, je me fais un plaisir ce soir de conjuguer mes deux passions, donc qui sont l'alcoolisme et la vulgarisation, en venant ici ce soir.
Ah bah parfait, ça nous fait vraiment super plaisir.
Carrément, en effet.
Voilà, donc soyez pas surpris d'avoir des petits bruits de bouteilles et autres.
Oui, parce qu'on déguste.
Là où Vincent passe, l'ingé son trépasse.
Voilà, puis on essaiera de vous parler un peu de ce qu'on boit parce que c'est vraiment excellent. On vous fera un petit retour sur ces bouteilles, etc. Et on vous conseille, c'est pas facile à trouver à Paris, mais par contre, ça vaut largement le détour.
Si, non, il y a des endroits c'est beaucoup plus dur. Hein. Paris, c'est encore assez sympa.
Est-ce qu'en Franche-Comté, ça se trouve facile?
Voilà, par exemple.
Il fallait
la Franche-Comté.
Fallait le placer.
On en parlait tout à l'heure en
plus. Beaucoup plus compliqué.
On a dit pas le tiers-monde. En parlant de Franche-Comté, Camille, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui?
Oui, c'est tout à fait dans le thème de la Franche-Comté, étant donné que je vais vous parler des sirènes.
Hein. Oui, franc-comtoise.
Bah, bien sûr, elle remonte le Doubs, telle détruite.
Est-ce que quelqu'un veut faire un coup de Claude François maintenant, comme ça on n'en parle plus?
Non, ça ira, merci, voilà, j'avais même pas pensé.
Moi, je pense aux sirènes de police, mais on passera à autre chose.
Non, mais Karim n'est pas là, j'avais zappé.
Après toi, ce sera Vincent. De quoi tu veux nous parler?
Moi, je vais vous parler d'un vocabulaire un petit peu abscon, qui est le vocabulaire du vin, et surtout de ce que j'en pense.
Ah, j'ai hâte.
Surtout qu'on est des gros connaisseurs autour de
voilà,
la table.
Donc on va essayer de débunker un peu tout ça. Ouais.
Très bien.
Vin blanc, rosé, rouge, je connais tous les termes.
Voilà.
Après toi, ce sera Monica.
Oui, alors moi, je vais vous parler d'un truc tout léger, tout mignon, c'est la santé en prison.
Oh, c'est choupinou.
C'est léger, c'est bien.
La suite du... de ma petite saga,
sur la surpopulation carcérale.
Saga prison break.
Après, ça sera moi. Et je vais vous parler de la...
Comment vas-tu nous parler, Ilias?
C'est vrai. Oui, voilà.
Lèche-botte.
Bah non, mais maintenant, je me prends tout seul, parce que je me sais qu'elle à chaque fois. Donc, je vais vous parler de réalité virtuelle. Et pas forcément du côté technique jeu vidéo, mais plus de comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on va en faire.
Bien. Pas mal, ça. Ok.
Juan. Surpris, là.
Non, je vais vous parler d'incompétence.
De l'incompétence.
De l'incompétence, ouais. Je vais pas rentrer dans les détails.
C'est un message à nous faire passer, du coup, clairement. Pas obligé de le faire à l'antenne.
Je prendrai certaines personnes en exemple, ouais.
Oh, la violence.
Ambiance. Et on va finir avec encore un...
La rubrique de la roue libre.
La rubrique
j'ai vraiment bossé cette fois.
Pub fever. Et donc, de quoi tu veux nous parler, Hicham?
Des sumo.
Ah bah.
Pas du sumo.
Tu sais, Hicham, en vrai.
Du sumo?
Ouais.
Lequel?
Ah, je vous. On en reparlera tout à l'heure.
D'accord.
On rigole, mais le problème de tes chroniques, c'est pas tes chroniques, c'est nous. Hein.
Oui, oui. D'ailleurs, on nous a demandé sur Twitter d'arrêter de t'embêter.
Ouais.
Et j'ai essayé
t'as mis en position de victime et maintenant tu le payes.
Et merci Juan pour le magnifique Je suis chouchou, ça m'a vraiment touché.
Ça me fait plaisir, je te prends un t-shirt.
Rendez-vous place de la République à 20h. Bon, et sur ce, partons sur le sujet de Camille.
Oh le chien. Mais Astérix, le poisson a parlé.
Enfin, il était sûr, putain.
Bah voilà, c'était cadeau, hein.
Merci.
Voilà, nickel. Comment débuter un sujet sur les sirènes sans parler de Claude François, n'est-ce pas?
Bah on aurait pu, hein.
Mince, on est passé à côté.
Pour le mien, là.
Alors, les sirènes. Tout d'abord, si je vous dis sirène, qu'est-ce que ça vous évoque?
Ariel.
Poisson.
Oui, bien.
Poisson.
Ulysse.
Ulysse. Ah, bien Peter joué. Pan, va... justement, oui.
Les culturés.
Peter Pan, oui.
Et soutif en coquillage.
Ah, bah, pas faux.
Bah voilà,
on étoile de mer.
Tu m'as demandé, je réponds.
Daryl Anna. Splash.
Oh oui.
Ok, soit. Donc, vous avez peut-être remarqué, enfin, certains m'ont parlé d'Ariel et d'autres m'ont parlé d'Ulysse ou de l'Odyssée. Il y a donc. Exactement. Fais pas ton rageux. Il y a deux types de sirènes. Il y a la sirène de la mythologie grecque. Celle d'Ulysse et d'Homère, et il y a la sirène du folklore médiéval scandinave, donc la petite sirène, entre guillemets, la sirène avec sa queue de poisson.
La sirène de Copenhague.
Exactement.
Une statue très décevante, d'ailleurs.
Il paraît. Il paraît.
C'est tout petit, ouais.
Oui, voilà, oui, il paraît que c'est tout simplement... Bah, c'est à taille réelle, je pense.
Enfin, ouais, ouais, c'est ça. Oui, j'étais hyper déçu, on l'a fait tout en flanc, je suis arrivé devant, je l'ai même pas vu, j'ai fait trois fois le tour avant de faire « Ah, c'est ça ? Cool !»
Ouais, d'accord, je vois le genre. Alors j'aimerais commencer par vous parler un petit peu des sirènes telles qu'on nous les présente dans la mythologie grecque. Les sirènes, d'après tous les différents récits qu'on a, donc des auteurs comme par exemple Homère, on nous raconte qu'elles vivent sur les côtes de Sicile et que ce sont des femmes avec la moitié du corps en forme d'oiseau, dotées de plumes, et que ce sont des musiciennes talentueuses qui chantent pour perdre les marins.
Tu t'es pas trompé de rubrique, là
Avec des plumes et des oiseaux?
Oui, dans l'Odyssée.
Oui, dans l'Odyssée, oui, c'est des...
Ça fait très longtemps que j'ai pas lu mon Odyssée.
Oui, c'est des oiseaux.
Oui.
Oui, oui.
Ok, oui, voilà. Ok.
Voilà, donc on va se calmer, mince. Donc, d'où est-ce qu'elles viennent? Alors, vous savez qu'en général, les histoires d'origine dans la mythologie grecque, c'est toujours super simple.
C'est toujours des lamentons.
C'est un dieu qui a ken avec quelqu'un.
On n'est pas très loin. C'est-à-dire que... On a trois options, donc les sirènes dans la mythologie grecque, elles sont pas nombreuses, elles sont deux ou quatre, hein, on sait pas trop. Et soit ce sont les filles d'un fleuve et d'une muse, logique.
Oui.
Soit ce sont des femmes qui ont été punies par Hadès, pourquoi pas. Soit c'est des femmes qui ont été punies par Aphrodite car elles ont refusé de donner leur virginité à un des dieux de l'Olympe.
Elles ont bien raison.
Voilà, donc après prenez la version qui vous botte le plus. Ce sont des personnages... pas excessivement sympathique, extrêmement fière, et elle décide un jour d'organiser un concours de chant contre 9 filles de Zeus. Quelle idée.
C'est ça.
Voilà. Elles ont perdu, et donc les 9 filles de Zeus ont décidé de piquer leurs plumes pour se faire des couronnes avec. Moi j'adore la mythologie grecque, je trouve ça génial, absolument, voilà. Même en étant sobre. Du coup, elles ne peuvent plus voler. Et elles vont vivre au large des côtes de la Sicile et de l'Italie du Sud. Au final, on peut se demander, vous savez que dans toutes les histoires de la mythologie grecque, chaque personnage a un petit peu une interprétation, une caricature de quelque chose. Et bon nombre d'auteurs pensent qu'au final, l'interprétation qu'on peut donner aux sirènes dont va nous parler Homère, c'est tout simplement en fait les putes qui étaient sur les côtes à cette époque-là, sur les plages, et puis qui disaient wouhou aux marins.
En fait, voilà. tu parles toujours du même sujet en boucle.
Je ne crois pas
avoir parlé les putes,
lors de la guerre d'Algérie.
C'est vrai,
ça
aurait peut-être été déplacé.
Peut-être.
Ça paraît de Franche-Comté, mais pas de but.
Peut-être. Donc voilà pour ce qui est des sirènes de la mythologie grecque. J'ai en revanche tout un tas de choses à vous dire à propos des sirènes de la tradition scandinave. Donc elles, physiquement, vous voulez représenter un petit peu plus, étant donné que ce sont des femmes...
Poissons.
Poissons, exactement. Et elles datent du...
15e poisson. Siècle.
Non.
Premier siècle.
Poissons.
Non.
19e.
Moyen-Âge.
Ah.
Voilà. La première mention qu'on a d'une sirène...
Ah oui, on t'a pas prévenu, Vincent, faut qu'on soit content quand on parle de Moyen-Âge.
C'est cool, Camille, Moyen-Âge, tu viens, pousse en l'air.
T'as ouais. entendu le désespoir, non
Vous faites chier. Donc oui, la première mention qu'on ait d'une sirène date quand même du 7e siècle.
Ah
pile
entre les deux bornes du Moyen-Âge.
Bide.
C'est un moine anglais, en fait, qui a décrit pour la première fois une sirène. Il était au calme sur sa terrasse et il a vu une sirène dans la mer, comme ça. Et il nous l'a décrit comme une vierge à queue de poisson.
Oh, alors, j'ai des questions.
À
quoi ressemble une vierge?
Voilà. D'ailleurs, est-ce que vous savez dire sirène en anglais?
Mermaid.
Mermaid, yeah.
Il y a deux mots, en fait, pour dire sirène en anglais. J'ai oublié de vous préciser. Mermaid, qui veut, en fait, quand on traduit du vieil anglais, ça veut dire fille de la mer, enfin jeune fille de la mer. Et c'est pour parler des sirènes de tradition scandinave. En gros, Ariel la sirène. Et pour dire sirène, mais de la mythologie grecque, on dit sirène.
Sirène.
D'accord.
Voilà. Il y a les mermen aussi.
Oui, exactement. Mais je n'en parlerai pas.
Personne n'a envie d'en parler.
Voilà, désolé. Hyper réel. Donc, les sirènes, elles sont vues. On a des témoignages de personnes tout à fait dignes, étant donné que Christophe Colomb en rencontre en 1493 à Saint-Domingue.
M'amène.
Voilà. Il en parle dans son journal intime de façon un petit peu blasée parce qu'il les trouve moches. Et non, c'est vrai, il a du mot, c'est des gros.
Forcément, si c'est un phoque.
Bah, c'est des lamentins. Ouais.
Le mec, il est à la taverne, il était pété comme un coin. Fin...
À la taverne,
la taverne en pleine
de
mer.
Saint-Domingue. Ouais. C'est bien connu. Hein. Et on en a même capturé une. Et oui, en 1403, ça s'appelle l'affaire de la sirène des dames, en Hollande. Et on a deux vierges, c'est toujours des histoires de vierges et de fromage. Hein. Deux vierges qui capturent une sirène dans un lac. Alors, ils supposent qu'elle avait remonté la rivière et et qu'elle pouvait plus ressortir. Ils l'ont capturée, ils l'ont lavée, ils l'ont, comme je l'ai lu, débarrassée de ses algues. Voilà. Et voilà, elle a vécu longtemps et elle est morte des années plus tard. Par contre, elle avait des jambes. Et moi j'ai trouvé que ça enlevait du crédit au témoignage. Oui.
C'était donc le cadavre d'une puce.
Petite question, est-ce que c'est Hichem qui t'a aidé à faire ton projet?
Elle
a fait une course de 100 mètres en partant 40 mètres en avant. Bon, c'était une sirène et qui avait des pattes. Ouais.
Voilà, mais sinon des témoignages de personnes qui ont vu des sirènes, on en a plein. De toute façon, je crois qu'il suffit de taper sirène sur YouTube et vous avez 1 million de vidéos de gens qui vous disent ouais, j'ai capturé une vraie sirène. Voilà, avec des sirènes de qualité un peu douteuse. mais on peut se demander à peu près d'où est-ce qu'elle vient, cette sirène. Alors, il y a une légende qui va vraiment donner foi à la création de la sirène, du personnage en tout cas de la sirène, c'est la légende de la ville d'Is. Vous connaissez?
Non,
pas du tout. Personne n'est breton à cette table.
YS.
Okay. Oui. Donc en fait, c'est une légende bretonne. C'est là qu'il aurait fallu passer un petit mano, un petit truc.
Non, ça va.
Très bien. Et en fait, en gros, on nous raconte que à la période celtique de la Bretagne, à l'époque arthurienne de la Bretagne, il y avait un roi qui s'appelait Gradelon, qui avait une fille qui s'appelait Dahu.
Ah, le Dahu.
Voilà. Et enfin, la Dahu, c'est une fille. Hein, calmez-vous. Et Dahu, elle se fait construire Is, une petite ville, au niveau actuel de Douarnenez, si vous êtes fort en géo. Et c'est devenu la ville du péché, la genre de Babylone bretonne. Et donc Dieu a été colère.
Oh, ouais. Pas content.
Bah, colère. Voilà. Hein.
La foudre divine s'est abattue sur la ville. Et la ville, en fait, a été inondée. Et elle s'est transformée en sirène. Mmh. Et de vieux marins bretons bourrés racontent qu'elle hante encore la baie de Douarnenez à notre époque. Sous une forme de sirène.
C'est bien parce que les histoires de vieux marins bretons bourrés. C'est dur à dire. Vieux marins bretons bourrés.
Oui.
C'est généralement fiable.
Ah bah c'est...
On parlait du
c'est...
fact-checking, là on est au.
Hicham te le confirmera. Hein.
Oh, oui.
Oh là là.
Non, mais j'aime beaucoup les podcasts à thème, et effectivement, l'alcoolisme est un bon thème pour ce soir.
Il y a toujours un Roland quelque part qui traîne.
Et cette légende-là, en fait, elle date du 5e siècle et elle a été très très souvent racontée. Et donc on raconte que Dahu aurait été la première sirène. Voilà. Et suite à ça, la sirène, elle a été extrêmement présente dans l'imagerie médiévale, c'est-à-dire qu'on retrouve des sirènes qui sont représentées sur des stèles, sur des tombeaux, sur des chapiteaux d'églises romanes, enfin, on en trouve un peu partout. Et la sirène, elle a été extrêmement popularisée avec un auteur, Christian Andersen, qui nous écrit en 1837, La petite sirène. Oh. Voilà. Vous connaissez la fin, vous savez qu'en réalité c'est triste
c'est et que
Walt Disney a tout niqué. Oui,
complètement, ouais.
Et tu nous rappelles la fin.
De toute façon. Et ben elle meurt.
Bah oui. Ça croustille pas assez, ça, ce que tu viens de dire.
Non, mais Andersen, si tu veux bien déprimer, c'est bien.
C'est taquin, ouais.
La petite fille aux allumettes, tout ça.
Pour bien faire déprimer les gosses, c'est génial.
C'est vrai. Ben, en gros, non, je me rappelle qu'en gros, elle a pour mission aussi de devoir épouser son prince, mais sauf que la reine déjà lui coupe la langue, enfin la sorcière des mers. Oh. et elle doit épouser son prince sans parler, et si elle le fait pas, elle se transformera en écume, sauf qu'elle, elle réalise que son prince est tombé amoureux d'une autre, et donc elle se suicide en fait le dernier matin, elle se jette dans la mer, elle se transforme en écume comme une merde. Voilà. Vous penserez à moi quand vous verrez de l'écume à la plage maintenant. Moi j'y pense à chaque fois, ça a traumatisé mon enfant.
Voilà.
Et il faut savoir aussi que cette image de la sirène mi-femme, mi-poisson, comme on la représente dans la tradition scandinave, a son équivalent dans le vaudou. Alors ça, j'ai été super surprise, il y a des sorcières dans le vaudou. Ouais. Ah. Voilà. Donc dans le vaudou, donc qui se pratique encore, donc c'est un type de vaudou qui se pratique encore énormément dans le sud, enfin dans l'ouest pardon, africain et dans la diaspora africaine, donc notamment aux Caraïbes. Et elle s'appelle j'ai pas noté son nom, mais je vais essayer de m'en rappeler.
C'est long comme prénom, ça.
Mama Vati, je crois. Voilà. Okay. C'est Mama Vati.
Full bluff.
Et
il n'y aura pas eu avec toi.
C'est le talent. Et c'est une nana super gaulée, super puissante, avec une queue de poisson, un serpent toujours autour d'elle, et qui en fait représente la fidélité. Et c'est une prostituée. Alors moi j'ai trouvé ça assez hilarant en voyant ça, étant donné qu'en fait c'est une prostituée. Et une fois qu'on raconte qu'une fois qu'un homme a couché avec elle, elle dit en gros à l'homme est-ce que tu veux continuer à tromper ta femme ou être fidèle? Et s'il dit oh bah non, moi j'aime bien aller aux putes, elle le bouffe. Et si il dit non, je vais être fidèle, elle le couvre d'or. Qu'on le couvre d'or. Voilà. mais du coup, ça m'a donné grave envie de m'intéresser au vaudou. Et je me disais qu'un jour, peut-être Ilias
ferait un sujet dessus. Bah oui. Ça m'a bien plu.
Moi, j'adore le vaudou. On pourra faire un sujet commun sur le vaudou si tu veux.
Bah ouais,
parce que qui dit vaudou dit zombie. Et,
ça me rappelle un sujet. Tu sais que ça vient de Mzambé.
Après, un sujet d'un pilote.
Mais on peut faire tout un sujet thème avec, par exemple, Monica qui me fera un petit tuto comment faire sa propre poupée.
Comment s'évader de prison avec une poupée vaudou.
Je m'y connais pas du tout en vaudou.
Et donc,
comment faire une poupée de Faf la rage.
J'aimerais conclure ce sujet sur une question, mais que vous vous posez tous, je n'en doute pas. Les sirènes existent-elles?
Ah, bah étonnamment, tu vois. Non, on ne se posait pas la question, mais vas-y.
Bah écoutez, je vais me la poser pour vous. Alors, on l'a cru jusqu'au début du XXe siècle. Quand je vous dis on l'a cru, je vous parle de la science avec un grand S.
Non.
Si, si.
Non. Si.
Si, si.
Non.
Si, si.
Non. Si.
Bah,
j'ai pas compris.
Ah bah, vas-y, développe.
C'est très long, on va dire.
Vas-y, développe.
Interminable. Eh bien, en fait, jusqu'au début du XXe siècle, les scientifiques sont convaincus qu'il y a bel et bien des sirènes qui existent.
Et là.
Avec des petites branchies, tout ça.
Début du XXe.
Début du XXe, il y a 100 ans.
Ah ouais. Ouais, c'est pas si longtemps que ça, quand même.
Ouais, mais non. Il y a 100 ans, on pensait que l'homosexualité, c'était un.
Non,
une maladie aussi.
Déjà plus.
Ouais, il y a 100 ans, les femmes pouvaient pas conduire en Arabie Saoudite.
Non, je t'arrête tout de suite. Ça a été enlevé de la liste des maladies mentales en Chine dans les années 90 seulement.
Oh, allez, oui, mais c'est pas le monde occidental.
Drop the knowledge.
C'est vrai.
Ok. Bon, les Chinois, effectivement, sont des êtres inférieurs.
Ah, carrément.
C'est toi qui as dit qu'on faisait pas de blagues sur les Chinois.
Je trouve ça excessivement tard.
Moi, j'ai le droit.
Ok, d'accord.
Donc.
Alors, la science.
Donc, la science, voilà. En fait, c'est à partir du XXe siècle que les scientifiques se disent mais non, on les a sans doute confondus avec des lamantins ou des dugongs. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu la photo d'un lamantin.
Oui,
c'est moche.
Absolument.
Voilà.
Oui.
Même en vrai. Donc,
ça n'a rien à voir avec des femmes.
Sais pas vraiment quel alcool buvaient les moines anglais du VIIe siècle pour confondre un lamantin avec une vierge à écailles.
Ouais, mais surtout, moi je comprends pas comment tu peux reconnaître une vierge à 300 mètres. Quoi.
Merci.
Enfin, c'était peut-être pas à 300 mètres, c'était peut-être le moine, il se baignait au calme, comme ça, avec la soutane.
Mais c'était la vraie question qu'on avait tout à l'heure.
De quoi? Que faisait le moine?
Non, comment on reconnaît une vierge à 300 mètres?
Si elle court plus vite que
toi. C'est le début d'une blague de merde.
Ouais, ça c'est une blague tellement salace. Mais donc, ils ont cru?
À partir de ce moment-là, ils se sont dit ça. Mais en fait, la légende de la sirène, elle a été entretenue grâce au récit que je vous ai dit, au témoignage, Christophe Colomb, ça, tout ça, et aussi avec les foires. En fait, à partir du 16e siècle, dans les foires, on va présenter des sirènes desséchées.
Les foires avec les foires aux monstres, etc.
Ça, alors ça voilà, c'est plus tard, c'est au 19e, mais c'est-à-dire qu'en fait on fabriquait des sirènes. Des squelettes de sirènes ou des cadavres de sirènes. On prenait un bas de thon. On prenait un haut.
Pourquoi un thon?
Bah c'est gros un thon.
Voilà, c'est gros un
thon. Il y a d'autres points. Bref.
On prenait un haut de par exemple au 19e siècle de guenon. On fixait le tout ensemble, on laissait sécher pendant plusieurs semaines et on était là, tonton René, il a ramené une sirène, venez voir. Et les badauds payaient, voilà. Et des médecins venaient voir ça et étaient là, mais c'est complètement incroyable cette histoire.
C'est fou.
Et il n'y a pas beaucoup de sources à propos de ça, mais on raconte également au XVIIe siècle qu'il y a une sirène, une vraie sirène, real one, qui a été disséquée à Leyde.
Oui, bien, j'imagine que c'est vrai. Je...
Probablement, mais en tout cas, c'est un énorme médecin, enfin un énorme.
Il mangeait beaucoup. Hein.
Voilà, un fat médecin de l'époque qui a fait la dissection. Et du coup, ça a apporté énormément de crédibilité.
T'es sûr qu'il n'était pas juste poissonnier ?
Mais c'est arrivé tellement de fois ces histoires de squelettes avec les fées, avec les géants, avec machin. Gruger des squelettes, c'est facile en fait.
Oui,
puis, bah, moi, depuis à l'époque, c'était facile.
Puis de toute façon, moi, depuis que j'ai vu la dissection de l'extraterrestre de Roswell. Voilà, oui. Je sais que c'est vrai.
Oh là là, mon dieu, c'est vrai. Donc, au final, la... la sirène, c'est un personnage intrigant qui fait rêver les enfants, mais qui, en fait, a été un personnage excitant, aquatique, sexy. Elle est tant...
Bah, Camille fait des gestes un petit peu genre...
Elle est tantôt bonne, qui sauve les marins, qui est sympathique, tantôt un peu salope en fait, qui les perd en les chantant pour piquer leur butin, on sait pas trop. En tout cas, c'est un personnage qui fait fantasmer. Et c'est vraiment un personnage qui est issu de cette société médiévale où on nous présente une femme un peu occulte, une image un petit peu forgée par une église médiévale qui nous dit ah, la femme c'est pas bien, Lilith, Ève, tout ça, tout ça.
Oui, mais qui en plus qui sont des femmes puissantes, en tout cas dans la mythologie, contrairement à l'image qu'on a voulu nous donner à la petite sirène où elle peut juste pas parler, alors que dans la mythologie elles sont fortes, puissantes, redoutées.
Exactement. Et elles ont un véritable pouvoir sur les hommes. Elles perdent en fait les hommes. Ça représente en fait tout ce dont les hommes ont peur chez la femme au Moyen-Âge. C'est des femmes qui sont libres, qui ont du pouvoir, qui sont dangereuses. Il y a une dimension extrêmement érotique. Et toutes les figures de sirènes qu'on va représenter au Moyen-Âge, elles sont représentées avec les mêmes attributs que les prostituées en fait. C'est-à-dire elles ont les cheveux détachés, elles ont un miroir dans la main, elles ont la petite encre tatouée comme ça au calme sur le sein. Elles ont le peigne.
Ce qu'Hicham a voulu dire, c'est ah, roue libre.
Donc voilà, donc c'est tout pour les sirènes en fait.
Petit dérapage contrôlé sur la fin.
Je vous remercie de m'avoir laissé ma phrase de conclusion.
C'est vrai que t'avais une phrase de conclusion.
Ah ouais.
Et donc ta phrase de conclusion.
Non, bon, attends, je vais remettre ton jeu. Non, j'ai plus envie de la faire. C'est trop tard. Merci.
Allez.
Au revoir.
Bon, tu tweeteras ta phrase de conclusion ou pas ?
Non. Tout ça pour vous dire que...
Ah, je sens le four. Four en préchauffage.
Qu'il n'y a pas une...
Mais des sirènes.
Attends, on veut la phrase de conclusion, du coup.
C'était vraiment ça ?
Non, qu'il n'y a pas une, mais des légendes de sirènes.
Ah ouais, ça aurait été dommage hein.
Ah putain, je suis vraiment dégoûté d'avoir coupé avant du coup parce que...
Ah c'était bien hein.
Ah putain. Franchement je t'arrêterai plus jamais avant que tu dises ta phrase de conclusion.
C'était bien. Non mais c'était intéressant. Oui. Un beau sujet légende qu'on ira vérifier. Munissez-vous de votre masque, tuba, palme et puis allez nager en terre où l'eau est froide pour aller voir si vous trouvez pas des hommes, des femmes sirènes.
Transition liquide.
Allez, oui, je suis en transition liquide et on va passer au sujet de Vincent.
Qu'est-ce que c'est que ce vin ?
Belle robe vermeille, le vin un peu violette, c'est la terre. Bel éclat, le soleil, c'est un Bordeaux.
Cet homme est incapable de faire la différence entre un grand Bordeaux et un petit cidre.
Mais non, il est un peu robuste, c'est tout.
Oh, vous en voulez pas pour du vin quand même ?
Ah, c'est abrupt là. Ah ouais, je pensais savourer un peu plus.
À toi les reines, Vincent.
Oui, donc effectivement, donc parfois le monde du vin, donc c'est rempli d'expressions un peu pompeuses, bizarres, voire carrément hermétiques, pour pas dire complètement capillotractées. Donc je vais essayer justement d'expliquer un petit peu tout ça et surtout de donner un peu mon avis, parce que moi j'ai un petit peu tendance quand même à penser que la plupart du temps tout ça c'est quand même un petit peu inutile. Ça sert surtout à certains experts de se palucher un peu. Donc du coup, je me suis mis quand même à me dire, bon, alors imaginons, est-ce qu'on pourrait quand même résumer le monde du vin en hein, 3 phrases ? Ça serait quand même vachement cool, non ?
Oui.
Ah, en gros, on pouvait se dire, on classe les vins en 3 expressions. C'est de la pisse d'âne.
Okay. Jusque-là, tout va bien.
J'ai connu mieux... Mais ça passe.
Mon préféré. Ça me rappelle une ex.
Voilà, ouais, pardon. Ou c'est tellement bon que je m'en tape le fondement par terre de bonheur.
Très bien. Et ben voilà, on a fait le tour.
Merci pour ce beau sujet.
Non, non, je sais. Et c'est là qu'effectivement on se dit, c'est peut-être quand même un petit peu limité. Ouais.
C'est vrai, il faut d'autres mots. Vrai.
Voilà, c'est un petit peu le souci. Donc du coup, le problème du vin, c'est ça, c'est que ça regroupe plein de choses. Il y a des sensations olfactives, tactiles, et donc en plus, il y a des tas de styles de vins différents. Donc effectivement, c'est bien de pouvoir décrire. Le seul problème, c'est que poser des mots sur des sensations, c'est toujours quelque chose de compliqué, surtout de très subjectif. Voilà, parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous la même expérience, le même palais, les mêmes souvenirs. Donc, par exemple, comme j'ai déjà pu évoquer en off, c'est que si vous parlez d'odeur de myrtille à quelqu'un qui n'a jamais goûté, ça va être totalement...
Ça sert à rien.
Voilà, ça sert à absolument rien parce que vous savez pas du tout de quoi on parle. Donc, c'est ça le souci, c'est qu'il y a des choses que vous connaissez pas qui peuvent être évoquées. Donc, effectivement, peut-être que la myrtille, l'encens ou des choses comme ça, ça peut parler à certaines personnes et totalement pas à d'autres. Donc, c'est compliqué. Donc, et après, il y a même des notions qui, même entre experts... sont totalement obscurs, c'est-à-dire que même dans le monde du vin, on n'arrive pas à être d'accord.
Une odeur de cuir, de...
Oui, même non, même pas ça. Par exemple, il y a des concepts comme la minéralité où les experts n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, ça, en gros, il y a des fils Facebook complètement hallucinants où des gars sont prêts à s'étriper autour du mot minéralité.
À ce point-là ?
Oui. Ah oui, non, mais c'est des définitions que, sur lesquelles les gens disent ça existe pas. Non, enfin voilà, vous racontez n'importe quoi, vous confondez ça avec l'acidité, mais non, ça comme un goût de silex, donc ça ressemble à la pierre, donc c'est ce qu'on appelle du minéral. Bref,
je rentrerai... Qui a sucé un silex déjà pour savoir si c'est un goût de silex ?
Lucille.
Baisse la main, Juan. Lucille.
Non, 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 on parlera effectivement des moyens. Oui, effectivement, on parlera des godemichis préhistoriques plus tard, mais pour ne pas tomber dans le ridicule, effectivement, enfin, on peut vite tomber dans le ridicule, c'est ce que je voulais dire, mais il y a quand même des termes qui sont intéressants à connaître. Donc, quand on veut décrire un vin, on va parler en général de son odeur, qu'est-ce que ça vous rappelle ? Donc, est-ce que ça vous évoque plus le fruit rouge ou effectivement le dessous de bras pas lavé depuis 3 jours ? Ça peut arriver.
On reste dans le large.
Oui, oui, voilà, on reste dans le large. Ou, et après, le goût et les sensations tactiles qu'on peut avoir en bouche. En gros, est-ce que ça vous fait plus penser à un bouchon d'huile, à, je sais pas moi, de la flotte ou un bon vinaigre bien acide, quoi.
Ah bah, ça vend du rêve, tout ça.
Oui, carrément, hein. Donc du coup, pour s'amuser un petit peu, je vais commencer peut-être par vous décrire quelques petits termes, ou plutôt on va faire un petit quiz assez marrant.
Ah, j'adore les quiz.
Essayez de deviner des mots du vin. Qu'est-ce que ça évoque pour vous le mot sapide ?
Sapide.
Oh là là.
Sapin.
Là là.
Non. Sapiens.
Ouh là là, sapide. Je sais pas.
Un vin sapide.
Sapide.
Ah. Sapide.
Oui.
Bravo.
Sous
mes applaudissements.
C'est effectivement sapide, le contraire d'insipide, donc c'est quelque chose qui est riche en saveur, quoi.
D'accord.
Voilà. Donc effectivement, quand on parle d'un vin sapide, c'est donc un vin qui vous en met vraiment plein la bouche, plein le nez, qui est assez riche et exubérant. Et pour continuer un petit peu, dans les expressions un peu marrantes, quand on dit qu'un vin a de la mâche.
Il a de la mâche.
Il a, ouais, de la texture.
Il a du tanin, qu'il est à nonche, qu'il est.
Il est vert.
Non, pas qu'il est vert.
Qu'il est épais.
Oui, mais qu'il a du. Oui, on va dire qu'il a de la mâche, ça veut dire en fait qu'on pourrait mâcher. D'accord. En gros, qui est assez dense, qui est assez épais. Quand on l'a en bouche, on a l'impression presque d'avoir quelque chose à manger.
Genre un gros Bordeaux, quoi.
Un smoothie.
Ouais, un smoothie, une Guinness, ce genre de petites choses.
Ah oui, quand tu parles de Guinness, du coup, on s'en rapproche. Ouais,
ouais, voilà. Ouais. Le liquide. Ou quand t'as l'impression de manger et de boire en même temps, quoi.
Ouais, ouais. Plus Bordeaux que Bourgogne, quoi.
Oui, voilà, exactement. Pas mal, en tout cas, vous êtes pas si mal, vous voyez.
Ah, faut pas nous flatter, ça va partir en couille. Hein.
Oui, non, après, si on veut vraiment commencer à se la péter, effectivement, ça, c'est un petit peu le truc pour tuer le game, pour montrer que vous êtes un super expert du vin. Donc, notez bien, prenez des notes, de dire... Là, tu vois, ce vin, il est vachement empyromatique.
Empyromatique.
Oh. Je ne sais pas comment l'écrire. Empyromatique. Je pose mon stylo.
Empyromatique. Ça veut dire qu'il a des saveurs riches.
C'est pas tout à fait ça, non. Enfin, en gros. Donc, allez, on peut dire que ça vient du grec.
Pyros.
Non, empuroma.
Bien essayé.
Donc, qui a l'odeur de l'empyrum.
Ah oui. Ah oui. Oui, l'empyrum.
Oui.
Tu arrêtes de dire oui et dis de quoi tu parles.
Oui, oui, Empyrum, c'est César, non ?
Non, non.
Putain, oh, la tentative de merde !
Non, c'est pas mal.
Empyromatique, Empyrum.
Eh, c'est ça. C'est, il faut avoir fait du grec, ouais.
Kida Empyrement.
Camille, à toi.
J'ai pris latin, tu t'es assez foutu de ma gueule avec ça. Dois-je te le rappeler?
Ah non, Empyrum, empirique.
Non.
Impérial.
C'est
non,
pas lié.
Non,
c'est pour ça, je vous dis, là, c'est pour tuer le game. Là, c'est
quelque chose de pas forcément agréable.
Ouais, ça s'approche. Non, enfin, non. Tout ce qui est empyromatique, en fait, c'est par rapport aux braises, donc tout ce qui est odeur de fumée. Tout ce qui est. En gros, la définition exacte, c'est tout ce qui est odeur et saveur forte et âcre qui se dégage en se décomposant sous l'action du feu. Donc, c'est toute la gamme aromatique, fumée, torréfiée, café, ce genre de choses.
Donc, sans vouloir faire une fixette sur la Franche-Comté, on pourrait faire du vin à la saucisse de Morteau.
Putain. Insupportable.
Alors, effectivement, pour accompagner une saucisse de Morteau, tu pourrais aller chercher un vin empyromatique.
Ah, voilà. Et ben c'est bon à savoir.
Par contre, tu dis ça à Nicolas, je pense que tu te fais foutre à la porte. Hein. Je cherche un vin empyromatique.
Je suis pas sûr que Nicolas, il sache ce que ça veut dire empyromatique. Oui,
justement.
Mais je suis pas sûr qu'il vend du vin, hein, donc.
Voilà, au moins c'est réglé.
Non, voilà, c'est des petits mots sympas à sortir en soirée comme ça. La
oui, ou à la douane en Arabie.
Bon, après, on va repartir quand même sur des trucs un petit peu plus simples. On va dire assez facile. Allez, un petit facile là pour repartir sur un truc plus simple. Gouléant.
Ah. Ah, bah il gouléille un peu.
Merci.
Ouais, bien.
Ah bah j'essaye.
Non, mais ouais.
Non, mais c'est vrai que moi je saurais pas exactement définir ce que c'est. Pourtant, c'est un mot que j'ai souvent entendu.
Oui, justement, gouléant. C'est un mot super commun, un peu ça utilisé dans tous les sens.
Mais ça veut pas dire goulée, ça en gros, il passe bien.
Une goulée, non. C'est une grosse gorgée, non?
En fait, ça veut dire en gros un vin facile à boire, plutôt léger.
D'accord.
La traduction 11e arrondissement, ce serait glouglou. Un vin glouglou.
J'allais le dire, c'est quand tu le sers, ça fait glouglou.
Voilà,
glou-glou.
Donc si tu traînes dans le 11e ou le 12e, tu dis je veux un vin glouglou et on sait ce que ça.
Ça, tu vois, ça c'est du best practice pour ta vie de tous les jours.
En gros, c'est du vin à pote, pizza.
Ouais, voilà, c'est un vin facile qui descend tout seul. Voilà, c'est ça.
Donc c'est le contraire de qui a de la mâche?
Oui.
Je révise. Hein.
Oui, gouléant, ouais, ce serait l'inverse de la mâche.
Exactement.
Habile.
Bien, ben
c'est
ouais.
Bon, je vais avoir la moyenne à mon contrôle.
Ce rosé est gouléant.
Exactement. Un vin charpenté.
Ah, ça c'est mon facile. Domaine, ça.
Ah, là on arrive.
Non, ne me regardez pas, je viens d'Arabie, oh, les gars.
Mais je sais pas, Sarpenté, qu'il a Sarpenté, n'importe
Charpenté,
quoi.
Ouais.
Serpentard, ouais.
Charpenté, ouais.
qu'il a des bases solides, je sais pas.
Bah, il a des saveurs complexes.
Ouais, c'est exactement ça, ouais. En fait, c'est quelque chose de solidement construit. Donc, c'est en général, c'est un vin qui est riche en tanins, en alcool, quelque chose qui est assez costaud, quoi. Donc, voilà, un vin... Alors après, oui, effectivement, ça veut dire quoi, un vin tannique?
Ah,
là
oui,
aussi, ça parle pas des mères.
On parle pas des mères. Ouais.
Et c'est quoi les tanins? Okay.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a une croûte au fond?
Presque. Non, en fait, les tanins, c'est ça. C'est que dans les vins, il y a des sensations tactiles aussi. Donc, si vous êtes amateur de thé, par exemple, ou de café, c'est-à-dire un café très serré ou un thé très infusé, effectivement, ça va vous attaquer un peu les gencives. Ça va avoir une sensation un peu d'épaisseur, voire un petit peu d'amertume. Mmh. Et dans le vin, on retrouve un petit peu la même chose. Donc, c'est ce qu'on appelle les tanins. Donc, il y a des tanins dans le thé, il y a des tanins dans le bois. Il y a des tanins, donc, du coup, dans la peau de raisin. Donc, un vin rouge va être plus ou moins tannique en fonction des régions, du type de raisin utilisé et de comment on l'a vinifié. Donc, un vin très tannique, ce serait par exemple des gros Bordeaux, où en général ils ont tendance à faire des choses un peu assez costaudes. Mm-hmm. L'ultimax étant peut-être des vins un petit peu du sud-ouest, de type tanat. Ça, c'est les cépages où en général qui vous décollent les dents. Oui, il y a vraiment à manger, mais c'est très bon aussi, hein. Faut aimer, mais c'est très bon. Et du coup, voilà, donc quand on parle de vin charpenté, en général, c'est ça. C'est un vin quand même qui est assez tannique. Donc, pareil, c'est assez épais, ça attaque un peu les gencives. C'est assez bon, mais en général, il faut accompagner d'un repas tout aussi léger, on va dire, pour arriver à le faire glisser. Quoi.
Une grosse viande rouge.
Moi, j'ai deux questions. La première, est-ce que le tanin, ça a rapport avec la couleur? C'est-à-dire, est-ce qu'un vin foncé sera plus tannique qu'un vin qui est clair?
C'est pas directement lié, mais en général, oui.
D'accord.
On peut avoir des vins foncés qui sont pas hyper tanniques, mais en général, les deux vont nous perdre.
Et j'avais une deuxième question, c'est Monica, est-ce que tu peux me passer la bouteille de rouge, s'il te plaît?
Non, je la garde pour moi.
Et allez, un petit dernier pour la route.
Allez.
Allons-y.
Alors, un vin ample.
Oh. Ah, gros. Qui se développe, qui, si on le fait oxygéner, il va développer ses saveurs.
J'aurais dit par la bouche.
Non, je dirais pas. Pas ça, moi. C'est un peu plus compliqué que ça.
Tu dirais qu'il est adjectif, au moins il y en a un qui va passer.
Non, mais c'est pour ça, ça fait partie des trucs que je trouve un peu ambigu, justement.
Ah, il y a des saveurs complexes qui couvrent un peu tout le palais.
C'est ce que j'allais dire, un vin où il y a beaucoup de saveurs différentes, en fait.
Donc ça couvre, enfin pas tout le palais, mais toute la langue, justement.
Alors, ça couvre effectivement, mais pas forcément au niveau des saveurs. C'est plutôt au niveau de la texture. Donc je vous donne la définition. Alors pareil, accrochez-vous à la table, ça va être marrant. Se dit d'un vin qui occupe pleinement et longuement la bouche avec les caractéristiques tactiles d'un tissu confortable. C'est la définition. Hein.
Comme le satin du pantalon d'Ilias.
C'est exactement ça. Si vous sucez le pantalon d'Ilias, vous avez une bise en merde.
Pour les auditeurs, mon pantalon est très beau et ils sont médisants.
Voilà. Il est saumon,
il
en,
est
satin.
Saumon en satin.
Il est beau, mais elle est bouffe.
Voilà, c'est un pantalon qu'on porte quand on veut jouer dans Eyes Wide Shut, peut-être.
Mais, oh, putain, mais... ce pantalon est très bien, voilà. Et il a les mêmes qualités qu'un vin, voilà.
Moi, en gros, voilà, ce qui m'importe, c'est plutôt qu'on redescende un peu sur terre, parce que justement, on parle juste de vin, quoi. Donc, l'idée, c'est pas forcément de faire un inventaire l'après-verre. C'est aussi, moi, je trouve qu'il y a un certain snobisme dans le monde du vin qui parfois me dérange, parce qu'effectivement, j'ai envie d'être plus proche des trois définitions de départ, de dire c'est bon, c'est pas terrible ou c'est vraiment merveilleux. Plutôt que de partir dans des délires poétiques qui des fois sont un peu too much, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est toujours bien de pouvoir communiquer, mais il faut avoir un vocabulaire commun assez simple. Donc il faut éviter en général de partir dans des descriptifs délirants. Et puis techniquement, le vin, c'est un truc que vous avez envie de partager avec vos potes, c'est envie, voilà, on se fait plaisir. Les descriptions techniques, c'est marrant 5 minutes, mais honnêtement, c'est pas, voilà, c'est pas le but, quoi. Moi, le but du vin, c'est pas juste d'épater la galerie un 25 décembre avec un truc de fou sur la table sur lequel je vais réciter 3 poèmes, quoi. Moi, j'ai surtout envie de le partager avec mes potes un samedi soir, même autour d'une pizza ou d'un kebab, quoi.
Bah, surtout, quoi, j'imagine que quand t'as payé une bouteille 10 000 balles, t'es content de pouvoir digresser pendant 20 minutes dessus.
Mais justement, je pense que c'est aussi pour ça qu'on en est venu là, quoi. C'est que les prix du vin, il y a certains vins qui ont pris une telle inflation. On arrive à des prix tellement délirants que effectivement faut en foutre plein la vue. Et c'est aussi ça, c'est tout ce vocabulaire aussi, moi de mon point de vue, hein, toujours, hein, ça peut se discuter, c'est surtout pour expliquer aux gens, quand vous faites un descriptif hyper pointu, hyper high-tech, c'est d'expliquer ce vin est bon, si vous ne l'aimez pas, c'est que vous êtes idiot. Mmh. Voilà, ouais. c'est plus votre goût, c'est ça vaut cher, c'est un poème. Si vous ne l'aimez pas, ce n'est pas que ce vin n'est pas vous, c'est vous qui ne comprenez rien.
Ça relève du business et plus du goût, quoi.
Mais... Non, et puis ça relève surtout de l'influence, quoi. C'est-à-dire, moi je suis un expert, toi tu n'es rien. Moi je sais en parler, donc toi tu te tais, tu bois, et même si ça te plaît pas, c'est pas grave, tu passes à la caisse. Oui.
Mais tu crois pas qu'il y a des personnes qui se disent, enfin, qui vont aller essayer d'acheter un vin, qui veulent justement cette saveur de cerise de...
Oui, mais justement, tu peux aller sur des mots simples. C'est ça, c'est que... Moi, ce que je conseille aussi, c'est ça, c'est que déjà, allez quelque part où on peut vous conseiller. Donc pour ça, moi, je dis, fuyez les supermarchés parce que vous n'avez aucun conseil. Tout ce qui est écrit sur les contre-étiquettes, c'est archi faux. Voilà, moi, je sais. Moi, j'ai un frère qui s'amusait dans la dégustation à raconter n'importe quoi. Et les gens disent oui. Il disait oui, voilà, wow, vous et trouvez pas, il y a un goût de banane avec un petit peu de pomme et de poire. Oh, c'est dit, ah oui, effectivement. Alors, oui,
bah, alors là, celui-là, bah non, c'est du raisin, les gars, désolé.
C'est l'effet non, placebo. C'est exactement ça.
Oui, il y a un peu d'effet placebo. Et ce qui est bien, c'est plutôt d'aller chez un caviste, un gars qui est un peu plus passionné en général, et de lui dire, voilà, moi j'aime bien les goûts un peu de fruits, un peu sur la cerise, j'aime les trucs légers, ou c'est pour un kebab avec des potes, ou c'est pour le 25 décembre à Noël, le gars il sera vous conseiller, quoi. Donc en général, voilà, c'est là où il faut aller.
D'accord.
Tout simplement.
Et je tiens à rappeler à nos auditeurs que c'est pas un vendeur chez Nicolas qui vous dit ça, mais un gars qui passe son année dans les vignes et qui fait son vin tout seul comme un grand.
Oui. Exactement.
Et qu'est-ce que t'as contre Nicolas ?
Alors moi j'en ai beaucoup.
Voilà, je vais laisser parler l'expert.
Non, en gros, Nicolas, c'est un peu un parasite du caviste. C'est-à-dire, c'est une chaîne, c'est une énorme chaîne. Ils ont plus de 200 ou 300 magasins en France. Donc, ils achètent au kilo, quoi. C'est-à-dire, en gros, en général, ils achètent un minimum à 100 000 bouteilles. Donc, il y a très peu de vins de vignerons d'artisans, quoi. Donc, c'est souvent des grosses maisons. Donc, c'est des choses assez standardisées, pas forcément des vins faits avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion, quoi. Et souvent, en plus, c'est des vendeurs qui sont juste des employés, qui sont pas forcément hyper formés ou hyper connaisseurs, et souvent ils sont un peu poussés à vendre certaines références plus que d'autres, quoi. Donc c'est pas forcément la passion qui parle, quoi. Voilà, c'est juste ça. Alors qu'il y a des tas de petits cavistes indépendants qui vraiment passent leur temps dans les vignes, qui viennent nous voir, nous petits vignerons, qui viennent déguster, qui passent vraiment du temps sur le terrain et qui sont hyper passionnés, quoi. Donc c'est plutôt vers ces gens-là qu'il vaut mieux aller. Alors effectivement, tous les cavistes sont pas comme ça, donc il faut des fois faut s'y intéresser un peu, faut aller voir plusieurs gars, se faire conseiller, par des bonnes et mauvaises surprises, mais en général c'est plus vers le caviste qu'il faut se tourner, quoi. Et puis surtout ne pas hésiter à leur parler cash, quoi, parce que eux ils sont là pour vous conseiller et dire écoutez, voilà, moi je veux un vin un peu sur le fruit, puis je voudrais un tel gamme de prix. Le gars il va vous expliquer, quoi. Il est là pour ça, hein. Faut pas croire qu'il va essayer de vous fourguer forcément le truc cher. Donc voilà, c'est quand même important, je pense, si vraiment vous voulez vous intéresser au vin, d'aller vers des petits cavistes, ou si vraiment vous voulez apprendre sur le vin, pas besoin de prendre des cours de nous, hein, franchement, je vous le dis. Ouais. Le plus simple, c'est vous faites une soirée par mois ou tous les 15 jours, par semaine avec vos potes, tout le monde amène une bouteille.
Différente.
Voilà. Vous ouvrez tout, vous goûtez un verre de chaque, vous en discutez, et après vous bouffez et vous sifflez le reste. Voilà. Et honnêtement, c'est la meilleure façon d'apprendre. Alors, juste quand même pour finir un petit peu effectivement sur les bonnes dégustations, je vais quand même garder un petit best-of pour la fin. Voilà, donc des fois en cherchant un peu sur internet, des petits comptes rendus dégustes, on tombe sur des petits chefs-d'œuvre de poésie assez sympas. Donc voilà, je vais vous faire une petite description d'un vin qui a beaucoup plu à une certaine sommelier. Alors, donc, le descriptif. Donc, vous me direz après si vous avez tout compris. Un nez d'une grande pureté, encore un peu fermé, mais d'une telle élégance. Précis, fin, délié, sur la cerise, framboise, groseille, note épicée plutôt réglissée, pointe ronce sous bois, fond sureau, noyau tout chambré, essence de pinot superbe. La bouche est charpentée.
Ah, c'est pas fini.
Droite, profonde, au tanin soyeux, ample, caressant, belle densité, enrobant de la fraîcheur sur la framboise, la groseille, note épicée réglisse, puis sureau, pointe ronce sous bois, végétal noble, fond noyau de cerise, un côté ambré tourbé. La finale est pleine, fraîche, tonique, très élégante, élancée sur la framboise, la groseille, note ronce plus réglisse, fond noyau.
Putain, mais il me faut ce vin, merde!
Il y avait des copier-coller trois fois là.
Il y avait deux fois ronce.
Trois fois.
Mais surtout, quel goût ça, les putains de ronces quoi! Qui a bouffé des ronces?
C'était vraiment un compte-rendu de dégustation.
Le même mec qui a sucé des silex. Hein.
Putain, mais...
Non, mais là, à mon avis, oui, il a. Ben, oui, voilà, j'allais.
Non, mais là, c'est le Laurence d'Arabie du vin quoi, ça dure 4 heures, le truc, tu le gardes
je pense que là, le pantalon est taché, mais.
Bah ouais non c'était super chouette, moi je suis très content toujours d'apprendre un peu plus parce que merci à toi, c'est vraiment un gros plaisir. Et bah, on va passer ces bons mots, on va passer au sujet
de qui t'as peur de dire son nom.
Monica.
Joey, appelez-moi docteur.
Il est médecin le pauvre.
Est-ce que tu as déjà visité une prison turque?
Mais qu'est-ce que c'est?
C'est une grande maison pleine de malades, mais enfin pour le moment c'est pas le sujet.
Tu sais, pour moi la prison c'était un peu comme une maison de campagne, je n'y vais que pour m'y reposer.
Oui, donc la santé en prison, c'est tout un poème, alors peut-être pas sur les fruits. Donc, comme vous vous en doutez, c'est pas une situation très agréable. Je vais vous faire une mini liste des pathologies qu'on peut voir. Donc, il y a VIH, tuberculose, MST type, hépatite B et C. En gros, des pathologies qui sont liées.
C'est le générique de Pokémon.
Hépatite, SIDA.
Attraper les.
C'est surtout toutes les pathologies. Oh, <Dieu. rire> Merci. Donc toutes les pathologies qui sont liées à des populations qui sont marginalisées et qui ont peu accès aux soins. Ensuite, on a évidemment l'alcoolisme, on en parlait, toxicomanie, tabagisme. Et il y a beaucoup de troubles de santé mentale, donc je vous en parlerai un peu plus. Et aussi, on a un vieillissement de la population pénale. Est-ce que vous savez quel est l'âge moyen, enfin la tranche d'âge moyen?
46.
50. Alors effectivement, vous avez totalement raison. Non, mais tant mieux, c'est bien, moi je suis contente que vous le sachiez. Donc c'est plus 30-40 ans. Et en fait, le problème avec les détenus qui sont un peu trop âgés, c'est que ça nécessite des soins lourds si jamais ils ont Alzheimer, cancer, d'incontinence, etc. Donc ils sont assez peu incarcérés. Voilà. Alors j'ai des petites questions pour vous. Depuis quand est-ce que les détenus sont rattachés au régime général de la sécurité sociale?
Je vais poser une question incroyable, mais ils ne l'étaient pas.
Non.
Enfin, j'imaginais pas forcément la Sécu, Amélie, tout ça, mais j'imaginais qu'il y avait un système.
Non, mais c'est
un
système de base.
Depuis quand? 85.
94.
Oh, la vache.
Depuis quand est-ce que le principe d'égalité des droits aux soins, qui peut paraître basique, a été affirmé?
1789.
Beaucoup trop récemment.
2005.
94 aussi.
La Sécu, par contre.
Depuis quand les soins ne sont pas prodigués par les surveillants de ou des personnels de l'administration pénitentiaire?
94.
Mais par des médecins. 94. Depuis 94. Avant, les soins basiques pouvaient être, et la distribution de médicaments pouvait être faite par les...
Oui, j'ai une petite question, qu'est-ce qu'on appelle soins basiques? Genre s'il y a une...
Ça veut dire qu'il ne nécessite pas une hospitalisation ou une intervention chirurgicale.
Une injection, des choses comme ça, c'est...
Ouais. Oh, tout ce qu'une infirmière pouvait faire.
Je suis en train de réfléchir à tout.
Ils ont une formation pour... ou c'était du pur freestyle. Ouais,
alors je n'ai pas les détails, mais je pense que
le nombre d'anachronismes dans des films qu'il doit y avoir à ce niveau-là, ouais. Alors, avec une infirmerie dans la prison avant 94.
Enfin. J'ai pas fini mon quiz. Le droit au secret médical.
94.
2009.
Quoi. Oh. Voilà.
Pour les femmes qui ont un examen gynécologique, donc sur le cheveu, les pieds dans les étriers là. Depuis quoi est-ce que c'est écrit dans la loi qu'elles ne doivent pas être entravées par des menottes?
2002.
C'est spécifique quand même.
2009. Oui.
2009, voilà. Oh, putain de Dieu.
Et il y a des personnes handicapées qui sont emprisonnées parfois. Et normalement, toute personne handicapée a droit à l'aidant de son choix. Mmh. Et donc, depuis quand c'est le cas aussi pour les personnes détenues?
2011.
2009.
Est-ce que je peux demander à quoi ça correspond à avoir droit à l'aidant de son choix?
Bah, t'as vu. Comment ça s'appelle déjà le film? Intouchable. Ouais.
Ah, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui va en toule avec le mec qui est enfermé?
Je sais pas. Je sais pas.
Il doit l'aider la journée, quoi.
Mais oui, c'est ça.
Ouais, mais il ne dort pas avec lui, parce que sinon c'est un.
Non, non, bah non, il dort pas, certainement pas.
Parce que là, c'est touchable.
Non, effectivement, je pense pas qu'il va dormir sur place, mais par exemple,
un accompagnement.
Après, ça va dépendre de la personne handicapée, dans quel type d'établissement elle est incarcérée, du type de sécurité, etc.
Et du style de handicap, ouais.
Et du style de handicap, tout à fait. Et le libre choix du médecin, qui est le principe pour toute personne en liberté. Est-ce que les détenus, depuis quand les détenus ont le libre
82.
Choix du médecin?
2009.
Eh bien, ils ne l'ont pas.
J'allais dire, je pense pas que ce soit le cas. Ouais, ça me paraît compliqué.
Pas le cas. Effectivement.
Ah bah oui.
Non, moi, je veux le docteur machin. Appelez-le.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas le cas pour des raisons pratiques. J'ai séparé mon sujet entre les soins somatiques. Donc ça, c'est la bobologie, les maladies normales et tout, et les soins psychiatriques. Donc d'abord pour les soins somatiques, comment ça se passe? Il y a une infirmerie par établissement pénitentiaire. Donc il y en a 188. Donc en fait, l'infirmerie passe une convention avec l'hôpital de proximité. Donc si jamais il y a un bobo un peu plus grave que l'infirmière ne peut pas gérer, on va faire une extraction et le détenu va aller à l'hôpital. Donc avec deux ou trois gardiens, il est menotté puisque le risque d'évasion est élevé. Sachez quand même que les surveillants ne sont pas armés. Parce que c'est trop risqué.
Donc si vous voulez extraire quelqu'un, c'est le moment là. Pendant l'hospitalisation.
Le risque d'évasion est vachement plus élevé quand pendant les transferts, tout ça, tout à fait. Et en fait, il y a une question qui se pose, qui est extrêmement importante, c'est le port des menottes et la présence des surveillants pendant la consultation. Ça va dépendre évidemment de la dangerosité du détenu, du type de pathologie et aussi du médecin. Si jamais il y en a qui préfèrent que son patient soit menotté parce qu'il a un peu peur, et puis il y en a qui ordonnent qu'il ne soit pas menotté, il dit je m'en fous, moi je suis médecin, je ne suis pas là pour faire garder en prison. Bref. Et après, il peut aussi y avoir des hospitalisations sur plusieurs jours, par exemple, si jamais il y a une nécessité d'une opération chirurgicale. Et là, effectivement, le problème, ça va être un problème de moyens humains, parce que ça mobilise du personnel jour et nuit, il y a une surveillance qui est là. Donc, on a décidé de créer des chambres sécurisées, soit au sein de l'hôpital, soit au sein d'une unité. Mais j'ai décidé de ne pas faire un sujet technique, donc je m'auto-censure. Par rapport à la distribution des médicaments, c'est super important au niveau du secret médical. Parce qu'avant, c'était l'administration pénitentiaire qui pouvait les distribuer. Désormais, c'est forcément l'infirmière. Donc ça nécessite qu'il y ait une infirmière.
Déjà.
Et c'est un petit peu délicat parce que si c'est l'infirmière qui passe entre chaque cellule pour le distribuer, bah, le secret médical, il n'est pas si bien protégé que ça. Mmh. Donc voilà, ça pose encore des questions déontologiques. Ensuite, j'en viens aux soins psychiatriques. Comme vous le savez peut-être, si jamais le discernement est seulement altéré et non aboli, on peut être déclaré pénalement responsable et donc être condamné à de la prison. Donc ça veut dire que même si on a des troubles psychiatriques, si jamais on a suffisamment de discernement, c'est-à-dire si jamais on peut suffisamment comprendre ce qu'on fait et les conséquences de nos actes, on est pénalement responsable. Au début des années 2000, en gros, on a un entrant sur 10 qui est orienté vers des soins psychiatriques après l'examen, le bilan clinique qu'il fait à l'arrivée. Donc 1 sur 10. Hein, où on lui dit, toi, tu dois aller voir le psychiatre. Okay. Il y a plus de 50% des détenus qui ont des antécédents de troubles psychiatriques. Pour finir, il y a un tiers des détenus qui sont dépressifs. Donc la dépression, c'est quand même une maladie qu'on ne connaît pas encore très très bien.
Mais il faut savoir que il y a un entrant sur 10 qui ont un haut risque de suicide. Alors, il y a eu énormément de progrès parce qu'il y a eu beaucoup de formations des surveillants justement à la détection des risques de suicide. Parce que ça fait tâche, en fait, on est vachement emmerdé si jamais on se retrouve avec un macabé dans la cellule. Oui, Camille.
Un genre de formation psy, en fait.
Alors,
en gros, enfin.
C'est plus à la. C'est
on pas leur la... permet non. de détecter les personnes à risque, entre guillemets.
C'est dans le sens où on va les détecter les attitudes, les comportements qui sont suicidaires. D'accord. Donc tout ce qui est dépression, etc.
Okay.
Et en fait, il y a aussi les moments les plus à risque. Donc c'est le choc carcéral qui est au moment de l'entrée.
Oui.
Genre c'est la première fois que tu vas en prison et là tu te rends compte que c'est pas Disneyland. Ensuite il y a.
C'est pas Disneyland.
Non. Ensuite t'as la veille ou les jours qui précèdent le jugement parce que ouais. là t'as une grosse remise en question et tu te fais un peu dans ton froc en ayant peur de ce qu'on va te dire et puis on va refaire toute ta vie au procès, on va te juger en fait, c'est pas facile à accepter ou à appréhender pour certaines personnes. Et au moment de la libération notamment pour les gens qui sont hyper adaptés. Et en fait effectivement donc il y a une formation à la détection de ces moments-là, il y a un quartier arrivant qui est créé pour que ce soit un peu plus soft et surtout en fait. Alors souvent, c'est pas non plus une science exacte, on dit qu'une personne qui est vraiment très 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 dépressive et qui a haut risque de suicide, un jour elle va aller mieux. Et on se dit, ah bah tiens, il est là et aujourd'hui il est souriant, il va mieux, il est guéri, c'est bon, c'est cool et tout. Et oh tiens, il est super généreux, il donne toutes ses affaires à ses camarades. Et en fait non, c'est juste qu'il a pris une décision. Et à partir du moment où il sait où il va, le gars, il a pris sa décision. Voilà.
Il y a entre guillemets une forme de soulagement qui fait que tu vas mieux.
Exactement. Et en fait, c'est un signe hyper important à détecter parce que ça veut dire qu'il va peut-être passer à l'acte.
D'accord.
Bref, donc ça c'était juste un exemple. Donc on a fait des progrès sur le suicide en prison, mais c'est toujours pas top. Mais il y a quand même un mieux. On peut au moins avoir... le problème, c'est de... Là, c'est un symptôme, en fait. On traite ça, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Le problème, c'est de traiter vraiment les gens qui vont en prison alors qu'ils sont pas du tout aptes et qui vont pas forcément investir ou comprendre leur peine. Et surtout, ça va aggraver leurs troubles. Parce que si jamais t'es entouré de gens qui ont des troubles, ça va pas t'aider.
Ouais.
Et surtout
c'est le meilleur environnement.
Clairement pas.
Sachez aussi que, par exemple, au manque de médecins, il y a plus de 15% des postes de psychiatres qui ne sont pas pourvus en prison.
Ah oui, d'accord. Voilà.
Et il y a 21 prisons qui ont fonctionné avec moins de 50%. Non, pardon, c'est même pas les psychiatres, c'était les dentistes, là.
Oui, bon, c'est pareil.
Mais c'est pour dire qu'on manque beaucoup de médecins. Il y a 22% des postes de spécialistes qui ne sont pas pourvus. Enfin, c'est vraiment, on manque énormément de prisons.
De personnel.
Le lapsus.
Aussi.
Et aussi, tout à fait. Je voulais juste vous parler un petit peu de l'organisation des soins. Donc d'abord, il y a l'infirmerie qui est le tronc commun, en fait. Donc si on a besoin de faire un premier rendez-vous, le psychiatre va se déplacer. Enfin, s'il y en a un, il va se déplacer en prison. Après, il y a des services un peu plus spécialisés. Et ça peut aller jusqu'à l'hospitalisation d'office, qui fonctionne à peu près comme les gens en liberté. Donc ça, c'est le préfet qui décide sur certificat du psychiatre. Et en fait, je voulais vous parler notamment d'un des endroits où l'hospitalisation peut avoir lieu, c'est le centre pénitentiaire de Château-Thierry. Parce qu'on en a entendu parler très récemment, parce qu'il y a un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, le CGLPL, qui en parle. Pour vous faire le topo, donc c'est un centre qui a été construit en 1850. Donc on peut imaginer que les locaux ne sont plus très...
bon état.
Ouais. Et en fait, ce que la contrôleur général des lieux de privation de liberté dénonce notamment dans son rapport...
C'est un peu long.
C'est un peu long. Le CGLPL. C'est qu'il y a des injections forcées.
Quoi ?
Ouais. En fait, on n'a pas encore accès au rapport, il n'est pas encore publié, mais c'est des soins qui ne sont pas du tout adaptés. Et surtout, les individus qui sont mis là-dedans, ils ont des troubles psychiatriques, des troubles psychiques suffisamment graves pour ne pas être mis en prison normale. Et ça veut beaucoup dire. Mais ils devraient vraiment être mis en hôpital psychiatrique, en fait. Voilà.
Et pour finir, il y a un autre problème, c'est le suivi après la libération. Parce que déjà, c'est assez difficile d'avoir un suivi pendant la détention. Mais en plus, on ne va pas tenir la main des adultes qui sortent de prison après leur sortie. Ouais. Et en fait, le souci, c'est que très, très, très souvent, dans la grande majorité des cas, ils rentrent chez eux, ils reprennent leurs petites habitudes, ils ne prennent plus leur traitement. Et donc,
il y a des rechutes médicales.
Ça peut arriver. Mais pour la plupart, il n'y a pas de suivi. Voilà, c'était le petit moment super rigolo et super léger.
Néanmoins passionnant. Ouais.
Merci. Et ça dénonce.
C'était le deuxième opus de cette spéciale univers carcéral. C'était sympa, pas léger effectivement, mais
c'est difficile à rendre léger.
Gouléant.
C'était pas gouléant.
Ça a de la mâche.
Ouais. Charpenté.
Non, mais ça mérite d'être dit toujours. Et puis de toute façon, on va pas te blâmer parce qu'avec Camille, on prépare des sujets pas légers du tout non plus.
Tu rigoles. On va se rigoler. Hein.
Ça va être l'enfer.
Ça va être chouette. Ouais. Allez, du coup, partons. Je vais prendre la suite. Allez.
Bon. Rien de tout ça n'est réel. Is this the real life? Qu'est-ce que le réel? Is this just fantasy? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau.
Ah ouais, Morpheus, effectivement. Voilà, Morpheus, Matrix. Moi, je veux parler de réalité virtuelle, mais pas du côté genre qu'on voit tous les jours dans les journaux, les films, etc., les jeux vidéo. Je vais plutôt vous parler de comment ça se passe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment ça marche. Donc déjà, réalité virtuelle, réalité, comment vous le définiriez?
Ce qui fait réagir nos sens, quel qu'il soit.
Non, malheureusement non. Une autre proposition.
Quand on est réveillé.
Non plus. En fait, une réalité, ça va être globalement un ensemble de faits, de concepts qui existent et qui forment un ensemble logique. Donc, si on définit notre réalité, en fait, au final, ça va être à la fois un espace où on est et l'ensemble des faits, des règles qui régissent cet espace.
Moi, je citerai mon auteur préféré, Philippe K. Dick, qui a dit que la réalité, c'est ce qui reste lorsqu'on a cessé d'y croire.
Ah, tu me piques une citation parce que c'est exactement ce que j'allais dire. C'est une très belle citation. En fait, au final, pour nous, c'est ce qui nous entoure, ça va être la physique, la chimie, les sciences de manière générale, donc aussi les sciences sociales et l'histoire, dans une certaine mesure. On va voir pourquoi. Par exemple, justement, par rapport à la citation de Philippe K. Dick, pour la gravité comme pour les relations sociales, c'est pas parce qu'on ne croit pas qu'une personne nous apprécie que c'est pas le cas, en fait. Et pareil pour l'histoire, on peut avoir des différences sur la façon dont se sont passées les choses, mais les choses se sont passées, qu'on le veuille ou non. Donc c'est un peu ça. Maintenant, si on parle du virtuel, comment vous définiriez le virtuel?
Quelque chose qui n'est pas palpable.
Non.
Un état où on nous fait ressentir ce que l'on souhaite et c'est pas nous qui choisissons ce qui est ressenti.
Alors vous êtes beaucoup sur le sensitif, c'est bien, mais c'est pas encore tout à fait ça.
Il y a quelque chose de créé.
C'est créé mais pas que, en fait. Il faut vraiment prendre la définition de citation de K. Dick pour ça. C'est que le virtuel, en fait, c'est ce qui existe uniquement par son éventualité. Donc ça existe uniquement parce qu'on l'imagine. À partir du moment où on arrête de l'imaginer ou d'y croire, pouf, ça n'existe plus. Donc les livres, séries, films, jeux vidéo, etc. On peut très bien tomber dedans, plonger dedans, être plongé dans cet univers, cet espace. Mais à partir du moment, soit on n'est pas touché, soit on arrête d'y croire, ça disparaît, ça n'a plus effet.
C'est la définition du virtuel, parce que moi j'appelle juste ça la suspension consentie de l'incrédulité.
Oui, c'est vrai que c'était plus clair comme ça. Non, mais le virtuel, en fait, le propre du virtuel, c'est que ça n'existe que parce que tu le veux bien, en fait, tout simplement. Et donc si on prend la réalité virtuelle, au final ça va être, je synthétise, en fait là j'ai fait un sujet un peu différent, où je vais pas vous asséner de grandes dates, etc. C'est plus des explications assez simples, des mécanismes. Donc la réalité virtuelle, au final, ça va être en fait une expérience qui tend à faire passer le virtuel pour du réel. Donc ce qui va passer pour ce qui est propre à l'imagination, on va essayer de le faire passer pour du réel. C'est aussi beaucoup un terme marketing comme cloud, disruption et toutes ces autres conneries, parce que ça fait très classe.
On vous renvoie l'épisode 7 pour ça.
Voilà, ça fait très longtemps que ça existe, depuis les années 70 je crois quasiment, dans la simulation, etc., avec l'épée de Damoclès, je vous invite à regarder. Mais de manière générale, si on résume, en fait, la réalité virtuelle, ça va être quelque chose qui va permettre d'immerger quelqu'un dans un monde créé de toutes pièces, donc numériquement ou non. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout propre à la technologie. On va regarder par exemple un exemple, bon là c'est un parti pris, mais on peut regarder le Truman Show. Truman Show, clairement, on peut argumenter qu'il est dans une réalité virtuelle.
Moi, je pensais plutôt à Hibernatus, mais bon, là, je pense que c'est une référence de vieux con, mais...
Non, non, ça marche aussi
con,
pour Hibernatus.
Con, je sais pas, mais vieux, oui.
Oui, oui. Non, mais bon, je dirais pas, mais j'ai vu le Cobaye au cinéma.
Jadis.
Mais Truman Show, c'est un très très bon exemple. J'ai jamais pensé génial. Comme ça.
Et ça marche aussi avec les trompe-l'œil, ce genre de choses. On peut faire croire des choses sans pourtant que ce soit technologique.
Et aussi piquer d'une nouvelle de Philip K. Dick.
Et oui. Si on regarde dans les réalités modernes, en fait, il y a pas mal de termes qui ont attrait au mélange de réel et virtuel. D'ailleurs, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité altérée, la réalité mixte. Enfin bon, c'est un joyeux bordel. Et tous les experts ne sont pas d'accord là-dessus parce que, bah, que ce soit en France ou dans le reste du monde, il y a beaucoup de différences parce que c'est encore en gestation. En fait, ça bouge tout le temps. Si on parle de la réalité augmentée et de la réalité mixte, en fait, par rapport à la réalité virtuelle, la différence, c'est qu'on va essayer de mélanger justement le réel et le virtuel, mais en se basant sur un environnement réel. C'est-à-dire que vous allez voir votre environnement tous les jours, la table, votre cuisine, etc., et qu'on va y rajouter des couches de virtuel.
Ça, c'est mon métier depuis 2000 ans.
Oui.
Moi, quand on me parle de réalité augmentée, ça me fait penser... Alors, peut-être que je vais être la seule à avoir cette référence, mais non, tu sais, les bouquins, quand on était petit, où ils te montrent par exemple Notre-Dame de Paris aujourd'hui, quand tu tournes des feuillets transparents, ils arrivent à te représenter Notre-Dame telle qu'elle était à l'époque. Enfin, tu sais, ça se rajoute.
Voilà, c'est un peu le principe.
Mm-hmm. Et pour moi, c'est les livres pour enfants, comme ça, où ils te rajoutent des trucs, des décors, tout ça.
C'est ça, et on peut avoir beaucoup de références, que ce soit dans les jeux vidéo, dans la science-fiction, etc. Ouais. On peut imaginer pour l'intérêt de la réalité augmentée et mix. C'est par exemple, si vous cherchez, mettons, une bouche de métro ou un resto dans la rue, vous pouvez très bien dégainer votre portable, mais c'est quand même beaucoup plus agréable et pratique de l'avoir directement dans votre champ de vision et que vous ayez votre chemin qui mène au restaurant indiqué par terre, etc., comme dans un jeu vidéo ou dans de la belle science-fiction.
Pour moi, c'est le développement le plus plausible dans les 10 prochaines années, on va dire, de la technologie. La réalité augmentée, ça a vraiment un sens et un développement naturel, et c'est là-dessus qu'on se dirige.
C'est un peu comme avec les lunettes Google.
Alors, oui, c'est le principe.
Malheureusement, non. Attends. La différence, là, c'est point de vue de technicien, mais pour parler des Google Glass, en fait, elles ne faisaient pas de réalité augmentée. Après, ça va partir dans les débats de terminologie. Mm-hmm. Mais les Google Glass, c'est juste un écran déporté. En fait, ça n'allait pas se superposer à la réalité.
Okay.
C'est là qu'il y a eu un gros débat, mais bon, c'est du technico-technique. Mais l'idée, c'est on imagine des Google Glass, mais où on peut superposer. Et là, ouais, effectivement, ça fonctionne. Et il y a des lunettes qui ont été développées dans ce sens-là. Maintenant, je vais repartir un petit peu sur la réalité virtuelle. Là, on a parlé de mélange de réel et virtuel. Ce qui est intéressant dans la réalité virtuelle, on se dit, bah tiens, on est plongé dans un monde qui est tout autre, mais en fait, ce qui fait le lien avec le réel, c'est l'utilisateur. C'est la personne qui est dedans, en fait. C'est lui qui est le porteur du réel dans l'expérience de réalité virtuelle. Comment ça fonctionne, la réalité virtuelle, en fait, c'est la VR, ça se base, enfin VR, Virtual Reality en anglais, désolé, j'ai plus l'habitude de le dire comme ça, en fait, ça se base sur un biais cognitif. Comment il fait? Avec une émulation des sens, en fait. Donc à ce jour, les expériences de réalité virtuelle étaient principalement basées sur les sens, enfin sur deux sens, la vue et l'ouïe. Donc réalité virtuelle, dans le passé, ce qu'on peut voir, ça va être des jeux vidéo, des films, etc. Si vous regardez des unes de magazines d'il y a 15-20 ans sur les jeux vidéo, c'était « Ah mon dieu, c'est magnifique, on s'y croira, etc. » Non, c'est dégueulasse, c'est foncièrement dégueulasse, c'est pas Avatar du tout, hein, ça n'a rien à voir.
Ça arrache les yeux.
Mais voilà, ça a évolué et c'était assez pauvre. Donc on voit sur un écran, on entend des sons et les autres sens sont délaissés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans une expérience, on reçoit des informations, ce qu'on appelle les inputs en anglais, mais on agit aussi sur notre environnement, les outputs. Et il y a 10 ans, on peut pas dire que c'était très sexy comme façon d'interagir sur notre environnement, clavier, souris ou manette, enfin c'était relativement nul à chier, niveau immersion, c'est assez pourri. Ce qui va être nouveau dans l'ère de la réalité virtuelle actuelle, c'est justement l'intégration de l'aptique, c'est la perception du corps dans l'environnement, en fait, la science du toucher. Et donc non seulement on perçoit un environnement à 360 degrés, mais en plus on se sent réellement dedans parce que nos mouvements naturels vont être reconnus, en fait. On peut tourner la tête, on peut marcher, on peut se baisser, donc c'est tout un sens de proprioception, c'est-à-dire qu'on va se sentir dedans et on va se reconnaître, en fait, dans cet univers. Et en plus, de plus en plus, on peut attraper des objets, ressentir les surfaces. Donc attraper des objets, ça va être avec des manettes par exemple, et ressentir des surfaces. Il y a des travaux sur des bras haptiques, des bras robotisés.
Des gants haptiques, ouais, j'ai vu ça aussi.
Des gants haptiques, quoi, qui peuvent faire ressentir des sensations. Et pour la surface, des gants ou des bras qui vont permettre de sentir si une surface est rugueuse, si elle est molle, si elle est dure, etc. Et ça aide vraiment à l'immersion. comme on a vu, on peut rajouter beaucoup de sens en fait, parce que bah, l'avantage c'est que plus on rajoute de sens, plus on va sentir dedans, on va pas y avoir quelque chose qui va nous troubler, on va pas y avoir quelque chose qui va nous dire bah en fait non je suis pas totalement dedans. Mais une des on va dire une des choses ultra importantes outre la technologie, ça va être la conception. En conception d'une expérience de réalité virtuelle, il y a deux règles d'or qui prédominent par-dessus tout, c'est la cohérence et la pertinence. Donc en fait, en réalité virtuelle, on peut créer absolument n'importe quoi sans aucune limitation pour peu que ce soit cohérent et pertinent. Donc c'est là que c'est intéressant, et on le voit justement dans le jeu vidéo, il y a des gamers, mais non, de tout le monde, n'importe qui, des gens qui ont pu tomber dans un jeu vidéo dans le sens où ils sont totalement plongés dedans, mais parce que c'était logique et cohérent. On regarde dans Mario, c'est du génie de game design, mais voilà. Mais justement, les gens comprennent très vite et tombent dedans parce que c'est logique et que ça passe. Donc là, pareil,
c'est logique, jette quand même des bananes.
Ouais, mais dans ce nouvel univers, il y a peu d'incohérences en fait. C'est ça qui est très fort. Ouais. C'est que justement, ça n'a rien à voir avec notre monde. On n'est pas obligé de suivre les règles de notre monde, mais c'est cohérent.
On revient à la suspension consentie d'incrédulité. C'est un concept important dans ce que tu racontes. Le fait que tu envoies des bananes, c'est parce que ton cerveau a accepté que dans le monde dans lequel tu es, le fait d'envoyer une banane, ça fait déraper ton kart. Voilà, okay, ton cerveau dit ok, ça passe, ouais, je suis d'accord avec ça, on continue.
Bah, exactement. Et ça marche parce que justement, par exemple, quand je prends cet exemple, quand tu envoies la banane sur la carte d'un adversaire, il glisse. Et quand toi tu passes sur une banane, ça glisse aussi. C'est logique. Si c'était pas le cas, ça paraît très bizarre. Ça te perdrait dans le truc. Donc c'est toujours cette question de logique.
Tout là, le gros problème, selon moi, de la réalité virtuelle, c'est l'oreille interne. Tromper l'oreille interne.
Alors il y a des feintes pour ça. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Le problème d'oreille interne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que avec un casque de réalité virtuelle, on va voir à 360 degrés. On va potentiellement bouger dans ce nouvel univers, mais notre corps ne va pas forcément bouger. Donc on peut trouver des mécanismes pour, mais pas forcément. Et il y a une feinte qui a été trouvée par des étudiants et plein d'autres gens en fait. C'est de faire un repère visuel. Donc à partir du moment où on a un repère visuel fixe, on sait que dans un avion, dans un cockpit, l'avion bouge, mais nous on est fixe dans le cockpit. Donc ça paraît plus logique que si on était poulala dans l'espace en mode oiseau. Et pour ça en fait, ce qui est intéressant et important, c'est que en fait, plus c'est logique, plus il va y avoir d'immersion, moins il va y avoir d'efforts nécessaires pour comprendre, être dedans en fait, et plus on va être dans une espèce de transe et agir instinctivement. Donc on va avoir des gestes naturels, justes, et on va avoir une réflexion qui est beaucoup plus complexe que si elle était dirigée. C'est-à-dire qu'on va pas réfléchir différemment de notre vie de tous les jours. Faut pas oublier que le monde dans lequel on est, le monde réel, on a une expérience de dizaines d'années, et donc on fait des choses, non mais c'est bête, mais on fait des choses naturellement avec des règles qu'on connaît, et donc le fait d'avoir une bonne immersion, ça va permettre de retrouver ça. Donc ça, à quoi ça sert? Ça va servir à faire, on peut notamment utiliser ces technologies-là pour faire des simulations d'environnement qui sont difficilement accessibles, reproductibles ou dangereux. Donc, par exemple, pour faire des entraînements à la gestion des feux pour les pompiers, des simulations dans des grands espaces, etc. Des choses qui sont difficiles à créer en vrai. Et il y a notamment quelque chose qui est intéressant, c'est que les simulations, ça existe depuis longtemps, mais il y a des études qui montrent en fait que qu'on est plus engagé dans une activité quand on fait de grands gestes. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand on fait une simulation d'avoir la possibilité de liberté de mouvement et d'amplitude de mouvement, et c'est pour ça que la simulation est meilleure en réalité virtuelle qu'avec un clavier, écran, souris. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des on va dire coach ou des formations, ils font des jeux de rôle, des choses comme ça, parce qu'on se sent plus engagé, on se sent plus dedans en fait, tout simplement. On peut, pour donner quelques exemples, on peut s'en servir aussi pour traiter des phobies. C'est beaucoup plus facile, moins dangereux, moins coûteux, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses, quoi, la peur de l'altitude, des araignées, n'importe quoi. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai pas fait une liste exhaustive parce qu'il y en a pas. Simplement, on peut tout faire. L'intérêt de la réalité virtuelle, c'est qu'on va pouvoir créer une situation, créer toute pièce, et qui va être cohérente, immersive et engageante. Et à partir de là, on peut faire des simulations d'entretien, on peut faire de la fantasy, on peut faire des choses plus terre à terre, enfin c'est nos limites.
Pour les membres fantômes aussi, je crois, non ?
Ouais, alors, je sais pas exactement comment le nommer, parce que, enfin, à quelle catégorie ça fait référence, mais effectivement, il y a eu des expériences où il y a des personnes qui étaient amputées d'un bras, par exemple, qui avaient donc des douleurs fantômes parce que le bras manque, etc. Et il y a eu des expériences qui ont été faites où on les a fait jouer à un jeu où, en fait, on mettait un marqueur sur leur bras et on les faisait regarder un écran où ils se voyaient eux-mêmes pour de vrai, mais avec deux bras. Et le fait de faire des exercices tous les jours avec ça, il y a un mec qui a fait un témoignage ultra touchant qui disait que c'était la première fois après avoir fait cette expérience qu'il dormait qu'il faisait une nuit complète en fait sans douleur fantôme, sans se réveiller la nuit. C'est monstrueusement puissant parce que, comme on disait, c'est un biais cognitif, on trompe le cerveau. Donc à partir du moment où le cerveau est trompé, on fait ce qu'on veut. Et ouais, c'est vraiment très très puissant.
C'est beau,
n'est-ce pas? Et bah voilà, qu'est-ce qui va se passer après? Alors ceci est une révolution, comme dirait Apple, mais lente et silencieuse. En fait, ce qui va se passer après, c'est que, bah, comme on disait, pour engager et que les gens soient en immersion, on va avoir le plus, enfin essayer d'intégrer le plus de sens possible. Donc là, on va pouvoir ajouter une gestion haptique plus forte, on va pouvoir gérer le goût, l'odorat, etc. Et on va surtout perfectionner les goûts existants, enfin les sens existants. Donc c'est dans ce sens que ça va très certainement se développer et permettre en cours de belles aventures.
Okay. Cool.
Merci.
Beaucoup.
Merci.
Très intéressant.
Ouais, c'était cool de pas l'entendre toujours sur le.
De pas entendre parler de l'Oculus Rift.
Ouais, grave. Voilà, parce que merci de l'avoir cité.
Le pan jeu vidéo et porno à longueur de journée, c'est un petit peu chiant.
Ouais,
mais
c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des différents modèles de casque et machin, mais c'est pas vraiment ce qui est intéressant dans la réalité virtuelle finalement.
Oui, voilà, on s'en fout. C'est un moyen plus qu'un but. Sur ce, on va passer sur le fat sujet de Juan.
Il est pas du tout fat, mais admettons.
Allez.
Qu'est-ce que t'as fait?
J'ai eu une super promotion, voilà tout. Et sincèrement, je comprends pas ta réaction.
Logoré de pauvres branleurs immatures.
Ça fait partie de ce qu'on appelle les soft conquistas.
Bien. Il est temps de se mettre au travail.
Alors moi, je vais vous parler d'incompétence, du coup, comme promis. On va parler du principe de Peter. Est-ce que ça vous parle, le principe de Peter?
Absolument pas.
C'est une... Je sais pas, un principe psychologique.
On va parler de ressenti, déjà. C'est... Soyez honnête, est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être entouré d'incompétents dans votre travail, dans une activité quelconque? Vous avez l'impression d'être la seule personne capable de faire son travail?
Toujours.
Je salue mes collègues qui ne nous écoutent pas. Mm-hmm.
Ça me dit quelque chose.
Oui, complètement.
Est-ce que c'est pas le principe de progression jusqu'à son stade d'incompétence?
Absolument.
Oui, oh là, champion du monde.
Oh. C'est une manière large de le dire, mais exactement. En gros, dans les grandes lignes, le principe de Peter, c'est... Chaque employé dans une hiérarchie va finir par atteindre son degré d'incompétence. Mmh. On va faire encore le petit quart d'heure histoire, on est obligé toujours à chaque fois. Donc le principe de Peter, déjà, c'est qui ce Peter?
Ah bah...
Justinoff.
C'est très large comme question.
Bah, c'est pas son prénom déjà, ça fait référence à un monsieur qui s'appelait Lawrence Peter.
Ah, raté.
Qui était pédagogue et qui, avec l'aide de son ami Raymond Hull, ils ont écrit un petit bouquin, tous les deux, en 1969, parce qu'en fait, Peter travaillait beaucoup, il avait développé cette théorie, et c'est son ami Raymond Hull qui a pris le temps, en discutant avec lui, d'accoucher sur papier, en 69 donc, pour parler un petit peu de ce qu'ils ont appelé tous les deux la hiérarchologie. Alors, hiérarchologie, ça n'existe pas. Ouais. Ça vous paraît un peu con comme terme, j'imagine? A raison, c'est-à-dire que le principe de Peter, c'est un bouquin qui est écrit sur un ton assez sarcastique. Ça le rend pas moins intéressant ou moins pertinent, mais c'est extrêmement accessible. C'est un bouquin qui est très petit et très intéressant. Et je vais vous dire à peu près comment ça marche, ça peut être défini assez simplement. Donc, un employé compétent reçoit une promotion hiérarchique.
Jusque-là,
ça va.
Ouais.
Un employé incompétent ne reçoit pas de promotion hiérarchique. Forcément.
On est en France, là ?
Mm-hmm. Mais il n'est pas rétrogradé à son ancien poste non plus.
Oui.
Il va rester à son poste actuel. Par conséquent, dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence.
On va progresse,
s'élever jusqu'au moment où on va être incompétent. Jusqu'au moment où on n'est plus... Alors, ce n'est pas vraiment une question de capacité, c'est plus une question d'organisation. Alors, je vais vous donner un exemple...
Oui, parce que là, je suis un peu perdu.
Bah tiens, on va prendre Hicham comme exemple.
Ah bah super.
Hicham, tu es apprenti garagiste.
Oui, jusque là, ok.
Ouais.
Tu adores ton travail.
Ah oui.
T'aimes bien mettre les mains dans le cambouis et ça impressionne tes supérieurs d'ailleurs. Mm-hmm. Donc, il passe au-delà du poste d'apprenti, il te donne un poste de mécanicien.
Ah, je suis.
Alors fait, du coup, t'es super content. Mmh. Bah, t'es chauffé. Tu peux réparer des voitures, t'es très zélé, t'es méticuleux, et chaque voiture que tu répares ne revient jamais dans la semaine avec une autre panne. C'est vraiment, tu fais gaffe à tout, tu la ramènes
chez
nickel.
Garantie une semaine, c'est déjà
elle
pas mal.
Elle revient seulement au bout de 8 jours.
Ah non, chez lui ça revient 3 mois après. Enfin, c'est vraiment un très très bon mécanicien.
Ouais.
Mais du coup, qu'est-ce qui se passe?
Bah, du coup, il va avoir une autre promotion.
Il va avoir une autre promotion.
On va dire, tu vas passer chef.
Eh oui, il va passer contre-maître de l'atelier. Qu'est-ce qui va se passer?
Quand les autres vont être jaloux.
Bah là, ça se trouve, il est très bon mécanicien, mais ça se trouve, c'est une bite en gestion de personnes.
C'est un autre problème, ouais. Parce que justement, il va devoir gérer des équipes. Il va devoir faire des schedules, des emplois du temps, etc. Et Hicham, lui, va faire quoi? Vu qu'il adore réparer des voitures, et ben quand il y a des voitures qui vont rentrer, il va aller les réparer.
Et du coup, je laisse mon boulot, ce que je suis supposé faire.
Bah, tu ne le fais pas.
Ouais.
Et tous tes employés à qui tu es censé donner du travail, donner des missions, et ben ils te regardent en train de réparer la voiture.
Mmh. Ils vont dire putain, il est incompétent parce qu'il m'a pas donné mon taf, il m'a pas fait mon calendrier.
Alors ça ne fait pas d'Hicham un incompétent de manière générale.
Oui, voilà.
Ça fait d'Hicham un incompétent dans le poste qu'on lui a donné, dans son poste de contremaître. Sauf que son boss, il va pas lui dire bon bah t'es viré. Non, il va pas forcément le faire redescendre dans la hiérarchie parce que bah il a obtenu des avantages, en fait un salaire, etc., qu'il va pas vouloir forcément le laisser tomber et revenir à un stade précédent. Et du coup, il va être coincé à ce poste là.
D'accord. Donc en fait, c'est comme l'alcool à la police, quoi.
Nickel.
Non, mais là, je comprends mieux. Là.
C'est une métaphore valable. Voilà. En effet.
Alors, si l'alcool. Tu tiens pas l'alcool, à un moment, tu vas plus pouvoir grimper.
Bah oui. C'est et le problème avec ce principe-là, parce que ce principe a été plus ou moins vérifié, parce que ça reste satirique, mais on a du mal à lui trouver des exceptions. Mais le gros problème, c'est que
j'en vois plein.
Dans les postes haut placés. Le principe de Peter est assez impitoyable. Parce que plus un poste est élevé dans la hiérarchie, plus il y a de chances que la personne qui l'occupe, du coup,
soit incompétent,
puisqu'il y a beaucoup de paliers pour arriver à ce poste.
C'est un peu qui veut gagner des millions.
Exactement, il y a assez peu de chances qu'après avoir gravi tous ces paliers,
tu sois toujours compétent.
La personne n'ait pas atteint son niveau d'incompétence. Exactement, donc c'est assez impitoyable. Mais surtout, c'est un principe qui, au-delà du monde du travail, explique le dérèglement général de la société. Pas que occidental, en fait, de la société en général, puisque le travail est effectué par des personnes compétentes qui n'ont donc pas encore atteint leur niveau de compétence, mais les décisions sont prises par des personnes qui ont atteint leur niveau d'incompétence. Et ce qui crée un espèce de cercle vicieux assez impitoyable.
C'est quand même vachement cynique.
Je tiens à vous donner vraiment la version simple, parce que ça va très loin, il y a énormément de contre-exemples. Parce que le premier truc qu'on fait quand on entend ça, c'est se remettre soi-même en question. Est-ce que dans mon travail, je pense avoir atteint mon niveau d'incompétence.
Tu m'as déjà psychoté là.
Oui. Et on va jamais vraiment reconnaître qu'on a atteint son niveau d'incompétence. Il y a des personnes qui le reconnaissent. Il y a des exemples à ce niveau-là. Il y a beaucoup de contre-exemples parce qu'on va chercher des justifications. Qu'est-ce qui ferait que moi je n'ai pas atteint ce niveau? Alors c'est possible que vous n'ayez pas atteint votre niveau d'incompétence.
Oui,
si vous êtes satisfait dans le travail, si vous avez l'impression d'être utile, mais que vous n'avez pas encore atteint un palier supérieur auquel vous penseriez être utile. Jusque-là, tout va bien.
D'où l'utilité du vocabulaire analogique pour masquer son niveau d'incompétence.
Exactement. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. En fait, il y a vraiment des exemples très pertinents. Et je vous invite à vous intéresser au principe de Peter. Parce que en fait, tout le principe est basé sur des exemples concrets. Évidemment, les noms ont été remplacés. Mais on va voir beaucoup, surtout, de principes dans l'administration publique. Un peu moins dans le privé. Surtout dans le public, où il y a moins de notions de hiérarchie sèche. Il y a moins de enfin, si on fait mal son taf, on est viré et puis c'est tout quoi. Il n'y a pas ça dans le public. Donc c'est très très problématique à ce niveau-là. Je vais vous donner des petits exemples d'exceptions au principe de Peter. Ils ont tous des noms à la con, comme je vous dis, c'est écrit de manière satirique. Donc on va avoir par exemple la sublimation percutante.
Oula. Ah, c'est beau.
Ouais. Ça consiste à muter un employé, donc pas forcément le plus méritant, d'un poste improductif à un autre. Donc il sert à rien, on va l'envoyer à un autre poste. Oui, il sert à rien. Alors c'est pas la même chose la mise au placard, on va en parler. Mais en fait c'est surtout, le but est de remonter le moral des autres employés. C'est-à-dire que si un type comme X est promu, bah nous aussi on a nos chances. Donc ça conserve la motivation des collaborateurs sans mettre en péril le reste. Donc la simulation percutante, pardon, ça permet aussi de maintenir en état la hiérarchie.
Ça regarde Michel, il devient chef et du coup c'est bon, on peut y revenir aussi quoi.
C'est ça. Bien que l'intéressé donc soit incompétent, son employeur le licencie pas et donc pas de crainte qu'il passe à la concurrence puisqu'il peut potentiellement savoir beaucoup de choses hein, s'il a déjà atteint un certain niveau dans la hiérarchie.
Tu le butes sinon.
Oui, mais ça, c'est pas légal, donc on arrive à d'autres problèmes. Et en effet, t'as mentionné un cas intéressant, ce qu'on appelle l'arabesque latérale. L'arabesque latérale.
Oula,
qu'on appelle pas, aussi communément la mise au placard.
Tu
veux nous parler de la mise au placard, peut-être?
Non. C'est quand tu fais une bourde et que du coup, on te met un poste que personne ne veut. Ou en tout cas, que toi, tu ne voulais pas.
Alors, pas forcément, parce qu'on peut te donner un poste qui n'existe pas, auquel on va donner un nom pompeux,
tu vas avoir aucune incidence,
mais
en fait,
qui sert à rien,
pas gêner.
Exactement, dans lequel tu n'auras aucun impact.
Je vois pas beaucoup de différence avec le cas précédent, avec la sublimation percutante.
Non, parce que là, tu sers à rien, en fait. C'est vraiment. Et on le sait, quoi. C'est surtout les autres le savent.
Exactement.
C'est bizarre, parce que tu payes quelqu'un.
Ouais,
alors que ça sert à rien.
Mais des fois, ça vaut mieux de le payer que de perdre tout ce qui va filer aux concurrents.
Aux concurrents.
Ouais.
Mais pour répondre à ce que tu viens de demander, la différence c'est la perception externe en fait entre ces deux cas. Il y en a un qui va impacter la perception externe et l'autre non.
D'accord.
Je suis conscient que c'est pas forcément intéressant et facile à développer
non,
comme sujet, mais je vous invite à vous y intéresser parce qu'en fait c'est un des rares principes qui est actuel alors qu'il a été écrit en 69 et qui est encore actuel aujourd'hui. On va parler un petit peu des personnes qui constatent leur propre incompétence, par exemple Hicham.
C'est vrai, Cham.
J'ai oublié qu'on parlait de moi.
On a plusieurs solutions pour toi, si tu as reconnu que tu étais incompétent. On va voir typiquement la spécialisation dans le détail. C'est-à-dire que ben, tu vas prendre un détail particulier de ton travail. Par exemple, quelle est la hauteur des cale-portes des locaux de l'entreprise. Et tu vas te concentrer là-dessus. Et ça va te donner toute un peu de valeur dans ton travail jusqu'à ce qu'on se rende compte que vraiment, il faut que tu dégages. Quoi.
Ouais, j'ai une vie de merde, quoi.
C'est possible. On va aussi avoir l'aberration totale, et j'adore le nom, c'est vraiment le nom que vous retrouverez dans le livre. C'est-à-dire cesser tout à fait de tenter d'accomplir son travail.
C'est-à-dire
tu ne fais plus rien. Ouais.
Ah.
Tu lâches l'affaire.
Mais en fait, moi, ça fait vachement penser aux... Alors, c'est horrible à dire, encore un sujet bien joyeux, mais les tortures qui étaient dans les camps. Et en fait, les mecs, plutôt que juste les enfermer, on leur faisait casser des cailloux.
Ouais.
Ça ne sert à rien, ça n'a aucune utilité, mais tu t'épuises physiquement et surtout moralement, parce que toute la journée, tu œuvres un truc qui n'a aucun intérêt. Bien, ils portaient des cailloux d'un point A à un point B, et le lendemain, du point B au point A.
Ça rend fou en plus.
Ah, mais ouais, c'est
et
ça.
C'est une métaphore cruelle, mais c'est exactement ça. Pour beaucoup de gens dans leur travail, ils vont se retrouver à faire un travail qui ne leur correspond pas, auquel ils sont parfaitement incompétents et qui n'apporte rien à la société. Est-ce que c'est à peu près clair?
Ouais,
très clair.
En tout cas, ça m'a vachement donné envie de lire ce tout petit livre.
Et je vous invite, je sais que c'est pas trop l'habitude du podcast, généralement on essaie de donner quand même des réponses. Là, j'en ai pas beaucoup parce que.
Tu nous invites.
C'est dans une discussion, vraiment, c'est des cas particuliers, c'est des exemples particuliers.
Non, il y a toujours une bonne réponse, l'alcoolisme.
Merci Vincent.
De rien.
Et bah du coup, c'était top, et maintenant on va passer au sujet de Hicham.
C'est quoi,
ouais.
Bienvenue, frère Sushi.
C'est pour ça que tu manges autant, parce que faut le faire d'être aussi gros en étant végétarien.
Qui est gros lourdeau, là?
Un simple grain de riz peut faire pencher la balance.
Alors, avant de commencer quoi que ce soit... Merci.
Il a l'air tout content.
Merci, bah oui, je l'ai écouté 10 fois au boulot, parce que les cale-portes me faisaient chier, mais non, enfin... avant de commencer, pour vous, le sumo, c'est quoi?
C'est des gros mecs
en sport. Des gros mecs en string,
c'est
très chelou.
C'est un sport, la lutte sumo. Oui,
voilà, merci Juan, tu es le seul à avoir raison, le sumo, c'est un sport.
Bon, oui.
Et des gros asiatiques. Attends,
c'est un sumo.
Ça y est, j'ai commencé ma chronique, ça part en couille.
Le sumo, c'est le bonhomme ou c'est la discipline?
Non, le sumo, c'est le sport, le sumo tori, c'est l'athlète.
Le sumo tori.
Oui.
Le sumo aussi sort de la pub?
Je peux parler? Alors, le sumo, c'est le sport qui veut dire exactement, littéralement, frapper mutuellement. Mm-hmm. C'est un sport qui date depuis déjà 1500 ans. C'est quand même énorme.
C'est pas mal.
Et les lutteurs, je sais pas... Les lutteurs. Merci Vincent. Les lutteurs, t'as dit quoi comme terme, toi?
Sumotori.
Ah bah moi, c'est rikishi. C'est le terme qui revient. C'est le terme qui est revenu à chaque fois. Enfin,
Peut-être que je me trompe, mais il me semble que
en
c'est...
En tout cas, moi, je vais les appeler les rikishi.
Très
qui
bien.
Dire
chacun
en japonais,
compétence.
Qui veut dire en japonais homme fort. Donc voilà.
Ok,
ça fait sens.
Voilà. Les rikishi, ils portent... de sorte de culotte.
Ouais, un peu string quand même.
Ouais, un peu string, qui s'appelle les mawashi.
Les gars, c'est un peu...
Vas-y.
Je vais vous donner plein... Rikishi, il va se marrer à chaque fois.
Essayez de suivre, parce que je vais utiliser ces termes-là assez souvent.
Okay.
Donc, sumo, rikishi, mawashi.
Ok.
Donc, pour devenir rikishi, il faut commencer avec un... Enfin, il faut être très très jeune pour commencer. Enfin,
ouais.
Et en général, tu rentres à l'âge de 15 ans et tu y restes pendant 15 ans.
C'est pas mal.
Ah oui,
15 ans. Belle carrière sportive.
Quand même, ouais. Ouais. Après, ça fait 30 ans, quoi. Bon, ça va.
15 plus 15, oui.
Oui, oui. Ouais. C'est un sport qui a plusieurs grades, qui sont divisés en 3 ligues. Le dernier, c'est le Jonukushi. Bon. Je m'excuse hein, parce que j'ai pas fait allemand.
Japonais
dans ma deuxième langue.
T'as tenu 3 minutes. Hein.
Ah, donc le 10e grade, c'est Jonukushi. Et le premier, est-ce que quelqu'un peut me le citer? C'est le.
Oula.
Il est assez connu. Enfin, moi, je le connaissais. Non.
Pas le
Yokozuna.
Oui, bien sûr.
Non, mais sérieux, ça vous dit rien?
Mais à quel moment?
Oui, vaguement. Ouais.
Vous avez jamais joué à Street Fighter? Jamais regardé du catch? Non.
Non.
Bon.
Non.
Ok. Bon, bah,
mais
écoutez,
on est content de l'apprendre.
Le premier grade, c'est Yokozuna. C'est vraiment le titre suprême d'un rikishi, quoi. Alors, une petite définition encore, comme ça, après, je vous laisse tranquille. Le combat, il se passe dans un dojo. Dojo, c'est l'arène.
C'est pas un dojo.
Non, c'est le dojo. Et dojo, c'est une arène de 4,5 mètres de diamètre. Et tout se passe là-dedans. Donc,
ce sport-là, le sumo, c'est un sport assez religieux. On reste quand même au Japon. C'est un mouvement... c'est pas un mouvement, c'est un sport.
Quand... Même quand on dit rien, tu pars en couille.
Quand, oui, Camille ?
Je suis vraiment désolée, ça va vous paraître super stupide et j'ai honte de poser cette question, vas-y, mais quand vas-y. Tu dis que c'est religieux, quelle religion ?
Alors, au Japon, Shintoïsme. Je me suis préparé parce que je me suis dit, ah, Camille va me poser cette question-là.
Là, tu me dis le judaïsme, je me barre.
Non, il y a plein de religions au Japon, mais les deux principales, c'est le shintoïsme et le bouddhisme. J'ai pas poussé mes recherches plus loin que ça, donc ne pose pas d'autres questions, s'il te plaît.
Moi, j'aurais dit Dragon Ball.
C'est déjà bien.
Et du coup, ouais, c'est un sport assez religieux. Le rikishi, en rentrant dans l'arène, il tape des pieds.
En signe de mécontentement.
Non, il tape des pieds et puis des mains pour chasser les démons. Et il jette du sel sur l'arène pour purifier le doyo.
Mais qu'il est en train d'assaisonner les doyos, là.
Non, mais enfin, c'est quand même, ça reste le Japon, c'est quand même le pays où le respect règne dans ce monde-là.
Pourquoi jeter du sel par terre, c'est du respect.
Je respecte cette épaule d'agneau.
Ce que je veux dire, c'est que le respect à la religion, c'est quand même quelque chose de très important.
C'est
dans le
très
Japon.
C'est très cérémonial, tu veux dire.
Oui, voilà, c'est comme ça. Enfin, on est loin des USA où il y a 44 nains qui combattent un éléphant en poussant un avion, quoi, tu vois.
Et qui perdent un peu
pour les personnes qui n'ont pas écouté l'épisode précédent.
Voilà. Donc, comment se passe un match ? Le match, ça commence... Enfin, c'est un rikishi contre un autre. Il commence quand les deux rikishis posent les mains au sol. Tant que les quatre mains ne sont pas au sol, le combat ne commence pas.
Okay.
Et il finit quand soit on tège le mec à l'extérieur du doyo.
Terme technique, hein, c'est du japonais.
Ouais. Tège qui veut dire. Non, je... donc c'est soit l'adversaire sort ou toi tu sors, ou soit un autre membre du corps humain, à part le plat des pieds, touche le sol.
Oula.
Voilà. Ou sinon aussi, si tu perds ton mawashi. Mawashi, c'est...
Si tu te finis à poil.
Le string.
Voilà. Joué. Vous
suivez. Si tu le perds, c'est que le mec, il a forcé grave. Quoi.
Mais c'est super bien serré et tout.
Ça arrive souvent ?
Parce qu'il... Forcément,
la question intéressée.
Forcément, parce que si tu perds ton mawashi, t'es disqualifié.
Là, il y a un truc qui va toucher par terre. Donc t'es
est-ce que ça rentre dans une sirène ?
Surtout que t'es grave à poil, quoi. Enfin...
Oui, c'est ce que je dis. Oui, ça va toucher par terre. Et
tu continues pas de battre à poil. Cérémonialement,
ils sont pas très loin du à poil. Hein. Quand tu regardes des vidéos, c'est un stringlèche quand même.
Je sais pas, je regarde pas beaucoup de vidéos dessus.
T'es passé à côté de quelque
dans
chose.
Dans tout le cas,
est-ce que c'est comme Homer où tu vois rien parce qu'il y a trop de bourrelets ?
Homer Simpson, mais ouais, bah, on regardera sur la vidéo.
Pas Homer des sirènes, pas. Ah merde, moi j'étais là, mais il a rien demandé, Homer, il va très bien.
Donc le combat est un combat assez court parce que bon, 4,5 mètres de diamètre avec deux gros rikishi qui se poussent, bah, ça va vite quoi. Donc ça dure vraiment moins d'une minute. Il y a eu quelques cas qui durent plus longtemps, mais en général c'est moins d'une minute.
D'ailleurs, je me pose des questions sur l'endurance cardio des sumo.
C'est
en fait
incroyable, je vais y revenir tout à l'heure.
D'accord.
Maintenant, du coup, bah, je vais me penser un peu plus sur les rikishi. Ils ont une vie ultra stricte. C'est probablement le sport le plus strict qu'il y a dans le monde du sport.
Ouais, ils ont un régime alimentaire.
C'est incroyable, mais pas que niveau alimentaire. Hein. Déjà, 80, le rikishi passe 90% de son temps dans son heia. Allez, vous pouvez faire la blague. Heia. Bon,
non, ça va.
Les heia, c'est une étable, c'est une sorte de dortoir.
Une étable.
Oui, ça s'appelle vraiment des étables.
D'accord, c'est... Pour moi, une étable, c'est là où il y a les moutons, les vaches, tout ça.
Bah, les
c'est plutôt les chevaux.
On apprécie ton côté animalier, Camille, donc vas-y, continue.
Non, mais du coup, il y a...
J'ai très Marguerite ce matin, c'était...
Les EIA, c'est des étables, mais les étables, en fait, c'est des sortes de dortoirs où tout le monde passe... Enfin, ils passent leur vie là-dedans.
Ok.
Et tu en sors que si tu es marié ou si tu prends ta retraite, tout simplement. Et donc, dans chaque écurie, il y a en moyenne 15 rikishi. Et ça fonctionne par hiérarchie. Donc, on est loin aussi de ton hiérarchologie, je sais pas comment tu dis.
Oui, là, c'est une vraie hiérarchie.
Ouais, c'est vraiment des vraies hiérarchies. Et c'est les 10 grades dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, j'ai oublié les noms. Du Jonokuchi au Yokozuna. Et ça fonctionne aussi en fonction de l'âge. Mais en tout cas, les 4 premiers grades, ils prennent ultra cher. Mais vraiment... C'est quand tu rentres dans le monde du sushi. Quand tu rentres dans le monde du rikishi.
Je me disais, ça va pas du tout, Hicham. Franchement, tout se passe bien pour l'instant.
Est-ce que l'huissier note qu'on a rien dit?
Vas-y, vas-y, continue. On va.
Du coup, ouais, les 4 premiers grades, ils prennent super cher. Ils dorment tous dans la même pièce. Ils se lèvent en premier, ils font le ménage, ils font à manger et mangent en dernier.
T'es un Cosette, quoi.
Non, mais.
Ouais, plutôt Dorcel. Mais...
Oh non.
Ils mangent en dernier et puis aussi ils se lavent en dernier après les entraînements. Et en plus de ça, si juste ça c'était pas horrible, parce qu'en 15 ans, enfin. C'est énorme. Dans le monde du sumo, tu t'y attends en fait quand tu vas entrer. Dans le monde du sumo, tu sais que tu vas te faire bizuter et que même parfois tu vas te faire punir physiquement pour te rendre plus fort.
Ouais, bah, et tu m'en diras tant.
Ouais. Donc au début, le but d'un rikishi, c'est un peu comme la pub, c'est de manger. Elle me suit partout, cette pub. C'est vraiment que de bouffer. Parce qu'il n'y a pas de limite de poids dans ce sport-là. Donc tu peux peser 60 kg et combattre un mec de 260 kg. Et ça s'est même arrivé en 91. J'allais dire, enfin, moi je connais le nom, mais parce que je suis cultivé. Donc en 91, il y a Akebono contre Mainumi.
Oui, oui, bien sûr.
Bah oui, non, mais franchement, Akebono, je pense que si vous voyez son image, enfin, si vous voyez à quoi il ressemble, il y a moyen que vous.
Je vois Bono, mais Akebono, c'est pareil.
En fait, Akebono, il fait 2 mètres de haut et il pèse 250 kilos. Mainumi.
Il pèse 5 fois moins quasiment. Quasiment 5 fois moins.
J'ai fait une comparaison avec toi tout à l'heure, t'inquiète pas.
T'inquiète pas, tu vas prendre cher, ça arrive.
Du coup, 2 mètres de haut pour 250 kilos, il a combattu Mainumi. Qui faisait 1m71 et qui pesait que, enfin, entre guillemets, que 140 kilos. Donc il y a une différence de 110 kilos.
Mais juste, on peut s'arrêter sur les 250. Je viens de capter, le mec, il fait 250
kilos.
Mais c'est
même pas. Il passe son temps à bouffer.
C'est pas de l'obésité morbide.
Mais
ça dépend s'il a du muscle ou pas.
Mais, bon. Mais en fait, on a l'impression qu'il soit obèse. Bon, ouais. À part pour Akebono.
Je sais pas si c'est une impression.
Mais non, parce que là, en moyenne, un sumi, il faut un sumi. Et qu'est-ce que j'ai avec sumi, sushi et tout? Un rikishi. Un rikishi a en moyenne 20% de graisse corporelle. Ouais. C'est pas énorme. Hein. L'obésité, elle est à 25%. Et la limite, enfin, 20% en fait, c'est la limite entre gros et en bonne santé.
C'est pas mal, en fait.
Tu t'es un peu, enfin, je sais pas, mais tu t'es un petit peu renseigné sur l'espérance de vie dans sumo.
Oui, ce sera ma conclusion.
Ah ok. Cool. Non, mais parce que ça m'intéresse.
Ils sont tous morts.
Bah non, mais ils vont forcément tous mourir, enfin.
Oui, comme
ouais,
toi.
Mais je me demandais s'ils pouvaient souffrir en fait des mêmes maladies que des personnes atteintes d'obésité, quoi, cardiovasculaire.
Oui,
tout ça,
en fait, ils finissent comme ça.
On y reviendra, du coup.
D'ailleurs, en fait, les rikishi n'ont pas toujours été gros. Ça, c'est assez récent que. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un tchèque qui s'appelle Pavel Bojar. Au Japon, on l'appelle Takanoyama Shuntaro. Et il a un petit surnom qui s'appelle Skinny Sumo. Parce qu'il mesure 1m87 et il a que, entre guillemets, encore une fois, que 98 kilos.
Ah bah oui, il a
skinny.
Mec, c'est un rugbyman déjà, quoi.
Du coup, Juan, tu me parlais tout à l'heure du sport, enfin, du physique de ces personnes-là. Ça reste quand même un sport de contact. Ils ont fait un test avec le Yokozuna en 2009, qui s'appelle Akuo Shuo. Quand il fonce sur son opposant, t'as là un impact d'une force de 608 kilos. T'imagines si c'est quoi? Et ben justement, ouais, tu pèses combien, toi, Ilias?
50, c'est bien, c'est pas un du tout. C'est 55 kilos.
Voilà, et bah écoute,
pour les auditeurs, je ne fais pas 1m20. Hein. je suis pas un nain obèse en ce cas.
Bah ça tombe bien, parce qu'un physicien a fait cette comparaison d'une force de 608 kilos.
Bah il te pèterait en deux 12 fois.
Pour une personne de 60 kilos, donc un tout petit peu plus gros que toi, c'est l'équivalent de sauter du 3ème étage.
Ah shit, putain.
Et non, ça, c'est dans un sport, quoi.
Moi, je vois un mec qui me fonce dessus comme ça, je me mets au sol, les mains sur la tête, je bouge pas.
Ouais.
Tu meurs quand même.
Ouais, bah, troisième
je pense que le Shoryuken est ta seule échappatoire.
Ou le sel dans les yeux.
Et les 4 derniers Yokozuna, en fait, ils sont étrangers. Ils sont étrangers en. Parce que
qu'ils sont pas nés au Japon.
Non, non. Oui, quand je dis étrangers, ils sont pas nés au Japon. Mais en.
avant, en fait, il y avait des écuries qui prenaient plein de Mongols, ouais. C'est les plus forts, apparemment. Et en janvier dernier, c'est la première fois qu'il y a eu un japonais Yokozuna depuis quasiment 20 ans.
Oui, parce qu'à une époque, je crois qu'il y avait un hawaïen qui défonçait tout, non ?
Ouais, il y avait un hawaïen, un mec
du samouraï.
Quoi ? plusieurs Samoa et des Mongols. C'est surtout les Mongols qui prennent tout. Et du coup, vu qu'il y en avait plein, ils ont limité. T'as le droit à un seul étranger par écurie.
Donc c'est un peu comme les Vikings de l'Asie, quoi. C'est les mecs qui sont ultra stock. Bah, excusez-moi de faire des parallèles.
Je vais aussi vous parler du coup des arbitres. Mm-hmm. C'est les Gyoji. C'est un peu comme les rikishi, ils rentrent, c'est un métier. Qu'est-ce qu'il y a, t'as encore
les gyoza, j'adore.
J'ai pensé à la même chose, j'étais là, mais c'est pas des raviolis.
On a tous la dalle en fait. Donc les gyoji, c'est un peu comme les rikishi, ils rentrent d'un très jeune âge et à peu près vers 16 ans, ils en sortent qu'à la retraite. Et vu qu'eux, ils ont pas de problèmes de surpoids ou quoi que ce soit, ils
peuvent vivre, quoi.
Voilà. Ils ont un uniforme qui varie en fonction de leur grade, et comme pour les rikishi, ils ont un grade maximum, comme les yukuzuna en fait, qui s'appelle le Kimura Shonosuke.
Oui.
Voilà. Et petite anecdote, ils portent toujours un sabre de 15 à 30 cm qui symbolise le fait de savoir l'importance de leur jugement pendant le match et qui sont prêts à faire un seppuku. Et seppuku, c'est un suicide,
bien sûr,
un éventrage.
Ça, on connaît.
Voilà, c'est ça.
Harakiri.
La vache.
Mais du coup, Camille, tu me parlais justement de la retraite d'un rikishi.
Mais il n'y en a pas.
En fait, il y a trois possibilités en général. Mm-hmm. C'est soit ils sont malades parce qu'ils ont trop bouffé.
Ouais.
Horrible.
Ils sont gros, quoi. Tous les problèmes.
N'oubliez pas de manger vos 7 poulets de porc par jour. Ouais.
Et justement, le Yokozuna de 2009 dont je vous parlais tout à l'heure, le Akuosho, il bouffe en moyenne, enfin à l'époque, il bouffait 7 à 8 bols de riz par jour.
C'est tout, ça va.
Quelle taille c'est... les bols?
Non, mais
taille
c'est
les bols.
Je te rappelle que c'est des rikishi.
Hein. Comme ça, donc son bol, il est...
Et c'est très, très mais c'est que je parle que du riz, parce qu'en plus de ça, il y a les ramen, les soupes, tout ça qui vont avec. Du coup, donc c'est soit ils sont malades, soit ils sont blessés, soit en fait ils arrêtent de gagner, du coup ils se disent putain ça me fait chier, du coup je prends ma retraite.
Du coup on les pique.
Enfin là on parle pas de la mort, là on parle juste de la retraite, quoi. Donc,
oui,
ça va.
C'est oui. Y a pire.
Ça va.
Ouais. Bah.
Sugoi.
J'ai plus le temps donc on coupe.
C'était magnifique.
Merci.
Et bah c'était bien cool, ouais.
Arigato gozaimasu.
On fera la traduction aussi dans les publications. Du coup, ça a sonné la fin de cet épisode. C'est très sympathique. Ça nous a fait un plaisir d'accueillir Vincent.
Oh bah, c'était un plaisir très très partagé.
Petits applaudissements discrets avec les doigts.
Oh.
Vincent qui nous a honnêtement sacré.
Non, ce que j'aime bien, c'est ça. C'est une rencontre de fans croisés, quoi. Moi, je suis fan de ce que vous faites. Et apparemment,
on
est
fan de ton.
Assez fan de ce que je fais.
Plus que fan de ton.
Vraiment.
Mais merci.
Du coup, de toi. C'est le début d'une longue amitié.
Voilà.
Et du coup, on le fait découvrir, on le partage. Non, il est vraiment bon. On vous conseille de le trouver. On essaie de vous passer des endroits
toutes
où le trouver, soit à Paris ou ailleurs. Et puis, en tout cas, c'était un plaisir. Encore une fois, cette semaine, enfin ces deux dernières semaines, on a reçu plein de messages bien sympathiques. Comme d'habitude sur Facebook, Twitter,
ou
par mail, on a souvent des messages assez touchants, donc c'est bien bien chouette.
Pas de suggestions de sujets par pitié.
Si,
le vaudou.
Si, voilà, on a une suggestion qui est le vaudou faite par Camille, donc je sais pas si on va la faire, mais bon, faire. Non, mais c'est toujours chouette, c'est vraiment toujours sympa. Et puis, comme on disait, c'est toujours pour nous, c'est le seul moyen d'avoir un retour de votre part. Donc n'hésitez pas, c'est toujours avec un grand plaisir. Et puis, sur les prochaines semaines, on vous prépare encore des.
Des invités, des surprises.
Des invités fort sympathiques, vous verrez, c'est nos petits chouchous. Ceux qui sont venus jusque-là étaient déjà nos chouchous.
des sujets culturels j'aime. Comme.
Ouais, voilà.
Putain, savoir
qu'il
y a ce
bouffe
quoi.
À tous les râteliers, donc.
Non, bon, toujours.
Ce podcast
des...
est acheté, je vous le préviens tout de suite.
Toujours des gens qui apprécient.
Si vous avez des choses à vendre.
Tu signeras le chèque avant de partir, s'il te plaît.
Voilà. Et puis, comme d'habitude.
Tu me rappelleras ton ardoise.
Ok, égalité. Non, et puis voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, nous envoyer un petit message, par plaisir, ça me fait toujours plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve dans deux semaines pour un fat épisode avec des petits sacripants qui vont se joindre à nous. Allez, sur ce
siècle.
Des bécos, ciao.
Allez, on vous embrasse très fort.
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer?
vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.